Europe Soir.
Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour les débats d'Europe Soir avec ce soir au programme le droit a été bafoué, c'est une injustice. On ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. La défense de Nicolas Sarkozy est en marche. Au lendemain de sa condamnation à un an de prison ferme pour financement illégal de sa campagne présidentielle en 2012, dans le dossier Big Malion, un Sarko déterminé à gagner le combat, qui se dit serein, il va interjeter appel. Justice exemplaire ou république des juges, on en parle dans la première heure de cette émission. La droite dans son ensemble et ses anciens proches en particulier, ils sont tous allés d'un mot de soutien à Nicolas Sarkozy. La droite qui enterre à jamais l'idée d'une primaire, trop de dégâts en 2016. Alors, chacun y va de son côté, en mode de chacun pour soi. Et ce, malgré les appels au rassemblement, comme celui qu'on entendra de Xavier Bertrand. Pendant ce temps, Édouard Philippe continue à soutenir celui auquel il voue une véritable loyauté. Il le redit dans un article dans Challenge, loyal et libre. Mais il n'empêche que l'ancien Premier ministre sonne l'alerte, la dette risque de nous coûter cher en France. Il appelle à sa diminution, ce qui demande constance et courage, dit-il. Ça passe par l'exigence de faire la réforme des retraites, avec obligatoirement le report de l'âge de départ à la retraite à 65, 66, voire 67 ans, par le fait de contenir les dépenses publiques et par le nombre d'emplois de fonctionnaires. Voilà donc un premier pavé dans la mare, hein, signé Édouard Philippe. À quoi il joue ? Même si tous les observateurs s'accordent à dire qu'il ne jouera pas son ticket avant 2027, on en parle tout à l'heure. Et puis, Lionel Messi, qu'est-ce qu'il a été critiqué pour son salaire au PSG ? 40 millions d'euros par an, mais voilà, c'est fait, Messi a enfin marqué. Avec le PSG contre Manchester City, c'était mardi soir avec la complicité de Mbappé. Alors, Messi boîte à fric ou machine de guerre ? On en parle en fin d'émission avec mes débatteurs de ce soir. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Louis Auzelter, journaliste à Marianne. Maxime Yedo, bonsoir, journaliste, essayiste. Et Isabelle Foren, bonsoir. Députée Modem des Hauts-de-Seine. Je signale également dans l'actualité le grêlé identifié, le tueur et violeur en série recherché depuis les années 80. Eh bien, l'homme qui a été retrouvé mort au Gros du Roi dans le Gard. Une lettre d'aveu a été découverte près de son corps. Il y raconte avoir été poussé durant certaines périodes par des pulsions. Le grêlé est soupçonné d'avoir commis 6 crimes entre 1986 et 1994. La réforme de l'assurance chômage est entrée en vigueur aujourd'hui. Avec elle, les nouvelles règles de calcul de l'allocation versées aux demandeurs d'emploi. Des règles durcies qui vont entraîner une baisse des indemnités pour plus d'un million de chômeurs. La sécurité est renforcée à Pôle emploi en Ile-de-France. 695 bracelets distribués aux agents. Il leur permettra de déclencher une alerte en cas de danger. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, dit pourtant que cette mesure n'a rien à voir avec l'entrée en vigueur de la réforme des retraites, mais avec le drame de Valence. Une conseillère avait été tuée par un déséquilibré. Fin de la grève des éboueurs à Marseille. Un accord a été trouvé entre les syndicats et la métropole. 90% des éboueurs avaient entamé une grève la semaine dernière pour protester contre une réforme de leur temps de travail. Anthony Blinken sera à Paris la semaine prochaine pour rencontrer les dirigeants français, le chef de la diplomatie américaine qui est conscient que la réconciliation avec la France prendra du temps. Beaucoup de travail après la crise des sous-marins. Le laboratoire Merck demande l'autorisation de commercialiser un traitement oral contre le Covid. Le laboratoire estime que Molnupiravir pourrait diviser par deux les risques d'hospitalisation et de décès. Le laboratoire Pfizer annonçait en début de semaine avoir commencé un essai clinique de grande ampleur pour sa propre pilule anti-Covid. Il est 18h sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, 18h, 20h,
Pierre de Villeneuve.
En compagnie du chef du service politique d'Europe 1, Louis Dragnel, bonsoir.
Bonsoir
Louis,
Pierre, bonsoir à tous.
Louis Auzelter, journaliste à Marianne qui va nous rejoindre dans quelques instants. Maxime Yedo, donc, journaliste essayiste, et Isabelle Floren, députée Modem des Hauts-de-Seine. D'abord, cette décision du gouvernement de contrer la flambée des prix de l'énergie. Concrètement, les tarifs réglementés du gaz, qui augmentent de 12,6% aujourd'hui, seront gelés jusqu'en avril. Et la hausse de l'électricité plafonnée à 4% au lieu de 12%, ça s'appelle le bouclier tarifaire. C'est Jean Castex qui était le porteur de la bonne nouvelle. C'était hier soir aux 20h de TF1.
Nous allons mettre
pour le gaz, pour l'électricité, en place ce que j'appellerais un bouclier tarifaire. C'est-à-dire, nous allons nous prémunir contre ces hausses de tarifs. Il n'y aura plus d'augmentation du prix du gaz, c'est-à-dire celles qui sont envisagées. Et à partir d'avril, selon les experts, nous verrons bien comment ça évolue, le prix du gaz devrait dégringoler. Donc évidemment, la chute sera plus lente puisque nous répercuterons la hausse d'aujourd'hui sur la moindre chute d'après.
Voilà, l'idée est donc de préserver le portefeuille des Français. Simplement, voilà, on est à 7 mois de la présidentielle, ça n'a échappé à personne. L'opposition dénonce une mesure électoraliste. Est-ce que c'est une façon d'acheter la paix sociale ? On peut dire ça, Maxime Yedo ?
Je ne sais pas si c'est une façon d'acheter la paix sociale, mais je pense que c'était nécessaire. Et il est important de retenir dans cette annonce de bouclier tarifaire quand même que cette hausse sera lissée tout au long de l'année prochaine. C'est-à-dire que de toute façon, cette hausse, on va la payer. C'est juste, on va dire, un moment entre parenthèses.
Ça ne tombe pas d'un coup.
Ça ne tombe pas d'un coup, etc. Une façon évidemment de soulager le portefeuille. Et je pense qu'on aura le temps de l'aborder peut-être un peu plus en profondeur juste après. Mais ça pose quand même la question de notre dépendance énergétique, de la façon dont on produit notre énergie en Europe.
Pourquoi en parler après, par exemple, tout de suite ?
Alors, puisque vous avez les vrais sujets. Non, je pense que tout ça est quand même lié. Enfin, je veux dire, dans les questions qu'on va aborder, notamment pendant la présidentielle, la question de l'énergie va être absolument primordiale, notamment la place du nucléaire, quand on voit que la mode est plus ou moins d'en sortir ou de s'en couper totalement. On voit par exemple que le chemin qui est pris en Allemagne avec 500 milliards investis depuis l'accident nucléaire japonais, les réouvertures des gaz ou des centrales à charbon, et puis surtout, accessoirement, la dépendance de plus en plus importante aux projets de gaz russe, tout ça prouve que l'indépendance énergétique et la façon dont on vante les énergies renouvelables n'est pas tellement la solution miracle. Et en France, en effet, on doit préserver cette énergie nucléaire pour justement avoir le moins de prix à répercuter. Et à ne pas oublier, il y a toute une question également des taxes aussi qu'on paye sur l'énergie qui est une question à soulever.
Isabelle Florenne, lorsque l'opposition dénonce une mesure électoraliste, vous répondez quoi ?
Moi, je réponds que le Premier ministre et le gouvernement ont eu raison d'être prudents et de mettre en place ce bouclier préventif. Je rappelle que d'autres pays l'ont fait déjà en Europe et qu'on rentre dans une période évidemment de chute de température et que
on est tous beaucoup plus couverts que sauf Louis Dragnet,
mais qui, absolument
évidemment, toujours en chemise,
on a
évidemment
ressorti des
notre
pulls.
Super-héros
je peux
de
vous
coton.
En... Non, mais voilà.
C'est pas la rubrique mode ici.
On change pas les dates comme ça des périodes automnales ou hivernales. Et que je pense qu'il fallait agir. Rappeler aussi que nous mettons en place des mesures de soutien aux familles précaires et avec la prime Rénov' aux rénovations énergétiques, c'est important. Et le Premier ministre a souligné l'importance de ces mesures et des efforts qui sont faits de soutien sur ce domaine énergétique. Et bien entendu, je suis d'accord. Ça va être le débat aussi de la présidentielle, qui est cette question d'indépendance énergétique et surtout de l'énergie décarbonée.
Louis Dragnel ?
Écoutez, moi, je trouve que commenter cette mesure, c'est intéressant, mais ça ne résout absolument pas le fond du problème. Effectivement, vous l'avez pointé du doigt, Maxime Yedo, c'est nos capacités de production énergétique. Et on voit bien, en fait, de plus en plus qu'on est à deux doigts de craquer parce qu'on n'a pas une autonomie stratégique suffisante, nous, Français. On est trop dépendants à la fois du vent et des autres. Et être dépendant du vent, c'est quand même un aléa assez important, notamment pour les éoliennes. Puis c'est un peu...
Vous savez que les éoliennes, c'est 5% de l'énergie.
Je sais bien,
pays,
mais on dépend aussi du vent. Il y a de l'énergie qui est produite
de l'Europe.
Dans le nord de l'Europe et l'est de l'Europe. Et on en est fortement dépendant.
Je parlais de l'Hexagone. Ouais.
Exactement. Et à l'heure où la Belgique est en train de fermer ses centrales nucléaires, l'Espagne est en train de faire la même chose. Donc tout le monde est en fait en train de se mettre soit à reproduire de l'énergie avec du charbon ou du pétrole, soit en important de l'énergie qui vient de Russie. Je pense que maintenant, il faut ouvrir les yeux et se dire qu'on a cruellement besoin du nucléaire et je pense que dans les années à venir il n'y a pas d'autre choix et je pense même que c'est une bonne chose, ce serait courageux de la part d'un candidat à la présidentielle d'annoncer la construction de nouvelles centrales nucléaires dans le pays. C'est une énergie qui ne pollue pas, c'est une énergie qui permet quand même de produire des quantités énormes en termes de mégawatts. Et en fait, il n'y a pas d'autre solution. Quand on regarde les perspectives d'avenir, on voit que notre augmentation de consommation en énergie, nos besoins vont augmenter de 10 à 15%
les voitures
dans les prochaines années. Alors c'est génial, tout le monde vend tout électrique partout, mais l'électricité, elle se produit comment? Enfin, vous voyez, il y a un moment donné où, si vous voulez, il faut être cohérent. On ne peut pas vouloir le tout électrique et puis de l'autre côté, fermer des centrales nucléaires. L'énergie vient bien de quelque part. Et c'est pas en recréant des moulins à vent partout qu'on y arrivera. Donc moi,
les moulins à vent, c'est les éoliennes, c'est ça?
Voilà. Les moulins à vent, à la limite, c'était joli et ça servait vraiment à quelque chose, puisque derrière, on pouvait faire de la farine, on pouvait faire plein de choses.
Écoutez, tant que vous n'êtes pas comme Sancho Panza qui lutte contre les moulins à vent, tout va bien.
Non, mais il faut assumer. En fait, c'est un vrai sujet. Le nucléaire, il y a tellement de fantasmes sur cette question-là. Je pense qu'maintenant, on a de la chance d'avoir des capacités nucléaires. On était une vraie force. La France est un des pays, un des pionniers du nucléaire civil. Et je pense que du coup, il faut accroître, assumer de défendre ce patrimoine énergétique français.
Louis Osalter, que je salue.
Bonjour Pierre. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais justement, sur le patrimoine énergétique et notre capacité à faire des centrales nucléaires, le fait de n'en avoir pas fait pendant si longtemps a entamé notre capacité, notre expertise en la matière. Et on voit bien que sur les chantiers d'EPR, en fait, on se rend compte, à Flamanville, qui a pris un retard à la fois en temps et un retard financier, en tout cas un gouffre financier considérable, ça montre en fait notre incapacité à construire la prochaine génération de réacteurs nucléaires. C'est-à-dire que quelque part, ce qui est effrayant, c'est qu'on n'arrive plus à bien construire une centrale nucléaire.
Qu'est-ce
parce
qui
qu'on
ne
l'a pas fait depuis longtemps. Et les retards considérables et le désastre qu'a été le PR de Flamanville. Alors,
des capacités qui sont limitées. Parce que
comparé à ce qu'on a pu connaître,
parfois on fait revenir même des retraités d'EDF.
Exactement.
On n'a pas encore atteint la rupture capacitaire. Et puis il y a un autre sujet que vous pointez du doigt. C'est un vrai risque, c'est que si on disparaît du nucléaire civil, on disparaît aussi du nucléaire militaire.
Militaire, bien sûr.
Et là-dessus, en fait,
les
mêmes qui vous vantent la souveraineté nationale, la défense, l'armée française, l'importance d'avoir une armée puissante, première armée d'Europe. Ceux qui sont contre le nucléaire, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment ils souhaitent qu'on conserve ses capacités militaires et de dissuasion en perdant nos capacités.
Parce que là-dessus, c'est surtout que c'est l'avenir des sous-marins.
Absolument.
Aussi.
Et c'est le politique qui est responsable. Donc si je fais ça, je termine mon raisonnement. C'est parce que pendant ce quinquennat, n'a pas été posée cette question. Ou plutôt, la réponse n'y a pas été apportée. Emmanuel Macron n'a pas décidé de quelle façon précise nous ferions le mix énergétique pour les 40, 50, 60 prochaines années. Pourtant, on a des scénarios. Il y a le RTE, les réseaux de transport d'électricité qui travaillent sur des scénarios. Ils sont capables de nous dire, voilà ce que ça donne si on pousse les renouvelables à 30%, si on refait du nucléaire à 30%. RTE va encore publier d'ailleurs des scénarios fin octobre qui permettent de se faire une idée de ce qu'il est possible de projeter dans la répartition du mix énergétique français. Mais le grand problème, c'est que pendant ce quinquennat, c'est une décision présidentielle et Emmanuel Macron n'a pas dit ce qu'il souhaitait pour l'avenir de la filière nucléaire et pour l'avenir de la répartition énergétique en général, donc de la façon dont on va faire une électricité dont effectivement nous avons de plus en plus besoin.
Pourquoi ce retard en termes de communication justement?
Le retard, il est idéologique en fait. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, il y a 5 ans, je passais pour un fou. C'est un discours qui passait absolument pas. Aujourd'hui, si vous voulez, après ce qui s'est passé avec le Covid et puis avec les besoins énergétiques aujourd'hui qui s'accroissent, tout le monde a bien compris que l'énergie, déjà, ça coûte cher, en fait. Et le nucléaire, c'est ce qui coûte le moins cher. Enfin, c'est une des énergies qui coûte le moins cher. Donc, la première raison, elle est idéologique.
Mais même ces diagnostics, ils arrivent tard, là. Fin octobre.
Le diagnostic, on pouvait le faire il y a quand même.
Il y en avait déjà, mais là, il y en a des nouveaux.
Ils étaient inaudibles. Aujourd'hui, effectivement, ils sont un peu plus audibles. Mais je voulais juste rassurer Louis Osalter. Alors, ça ne va peut-être pas vous rassurer, parce qu'il y a une forme de cynisme un peu dans ce que je vais dire. Mais nous sommes à 6 mois de la présidentielle. Le président va
J'avais compté 7, moi, mais c'est peut-être 6.
7, pardon, 6 mois et demi. On s'y rapproche. En tout cas, chaque mois supplémentaire, c'est un mois de moins. En tout cas, là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Et donc, le président devrait parler du nucléaire dans les prochaines semaines, dans le cadre de la présentation de son plan d'investissement. Et donc, là-dessus, Emmanuel Macron, pour le coup, ne pourra pas se dérober. Il va être obligé d'exprimer une position extrêmement claire.
Au moins pour le mettre dans son
plan. Et vous posez la question de pourquoi des réactions, notamment élyséennes ou gouvernementales, tardives. Tout simplement parce qu'on a eu ces derniers mois des exemples concrets de notre manque d'énergie. On se souvient, l'hiver dernier, certaines villes ou certaines habitations... Exact. En incapacité de pouvoir faire fonctionner leur compteur correctement ou se retrouver littéralement dans le noir.
Vive le nucléaire, alors.
Oui, mais juste justement, mais on se rappelle même, par exemple, de la ministre Barbara Pompili annoncer que pour certains endroits en France, ce serait compliqué. On a même relancé des centrales à charbon, en effet, parce que certains EPR avaient pris un retard considérable, parce qu'il y avait du manque de vent. Donc, en France, cet hiver, alors certes de façon très éphémère, mais on a relancé des centrales à charbon. Donc, tout ceci, évidemment, relance le débat de façon un peu considérable. Et puis, il y a eu, évidemment, cette crise et ces derniers mois avec, à mon sens, la primaire écologiste qui a posé de véritables questions. Quand on voit beaucoup de candidats avoir des mensonges sur le nucléaire français, dire qu'on est incapable de démanteler, les centrales nucléaires, c'est faux. On le voit très bien, par exemple, à Chinon, c'est ce qui est en cours. C'est ce qui est en cours. Louis de Ragnel vient de le rappeler, mais le prix des énergies renouvelables sont souvent plus élevés que le prix du nucléaire. Et ensuite, évidemment, il y a encore énormément de progrès à faire dans l'enfouissement des déchets nucléaires, mais c'est un domaine, on n'en a plus beaucoup, il faudrait s'en vanter, dans lequel la France est assez experte encore. Donc vous voyez, toutes ces questions poussent quand même tout doucement à nous encourager à avoir un regard un tout petit peu lucide sur l'état du nucléaire
Isabelle
en France.
Isabelle
Florenne. Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce que vous avez dit sur Emmanuel Macron quand même tout au long de ce mandat et ces deux dernières années encore. Je pense que dans un certain nombre de ses interventions, de ses déplacements, il a pu réaffirmer son souhait de voir la part du nucléaire maintenue, même si je reconnais qu'au sein de cette majorité et même au sein du gouvernement, mais je reconnais, et personnellement, moi, avec le groupe du Modem, des démocrates, on est favorable au nucléaire, et avec François Bayrou, on a eu l'occasion, et François Bayrou l'a redit dans ses missions qu'il assume aussi au commissariat au plan, toute l'importance que devait avoir le nucléaire dans le mix énergétique, parce qu'il faut réfléchir également à ce mix, mais qu'on n'est pas encore prêt à baisser la part du nucléaire. Donc là, il y a un débat. Je reconnais qu'il y a un débat au sein de cette majorité.
Au sein du gouvernement.
Bien entendu.
Et même au sein du gouvernement. Et au sein du gouvernement.
Au sein du gouvernement, il y a un débat, mais je crois quand même que la parole du président de la République, et je suis d'accord avec vous, sera importante dans les mois qui viennent sur le programme et sur les enjeux sur ces sujets. En tout cas, avec un certain nombre de députés de la majorité, nous pencherons pour cette énergie décarbonée.
C'est un nouvel exemple criant du fait que dans cette majorité plurielle, on a du mal à se mettre d'accord, puisque on conjugue.
Surtout, alors là, il va falloir se mettre d'accord.
Barbara Pompili, qui, rappelons-le, est une militante écologique depuis toujours. Avec, vous parliez du Modem et d'autres forces
de la maire qui est plutôt pro-nucléaire. Oui. Mais après, le nucléaire a toujours été, c'est assez étonnant, ça fait partie de ces totems un peu au sein de la société et de la vie politique, où dans toutes les familles politiques, vous avez des pros et des anti.
Enfin là, c'est flagrant quand même, on a le spectre macronien, c'est... Alors, est quand même beaucoup plus étendu.
De pro-nucléaire à anti, quand même.
Ce qui se passe, de figure géométrique, mais en l'occurrence...
Non, mais je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que Emmanuel Macron, aussi, au début de son quinquennat, était mis sous pression, quand même, sur cette question du nucléaire. Il y avait beaucoup de... Même au sein de la population, il y avait une forte pression pour limiter, diminuer la part du nucléaire. Et du coup, il avait dit qu'il ne s'exprimerait sur le nucléaire que quand on avait les résultats de Flamanville 3, pardon. Ouais. Donc les résultats sur l'EPR. Et on ne les a toujours pas. Et c'est la raison pour laquelle, je crois que c'était ce matin, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, qui a demandé, c'est passé comme ça à l'air de rien, à ce qu'on puisse accélérer sur les EPR. Donc je pense qu'elle est peut-être en train de préparer un tout petit peu la prise de parole du président de la République en quelques semaines sur le sujet.
Mais surtout, pardonnez-moi, on parlait de se mettre d'accord, il va falloir se mettre d'accord entre les différents partis très rapidement, parce que même s'il y a un lissage pendant encore une grosse année, la répercussion sur les ménages, notamment grâce à l'inflation, ou grâce à l'inflation, à cause de l'inflation qui est en train d'arriver, va se faire ressortir un peu partout. L'énergie en prend un sacré coup. On voit que c'est pour tous ceux qui travaillent dans les métiers manuels, voient certains prix du bois, du plastique, du métal flamber, et tout doucement également, même les entreprises françaises vont faire répercuter sur leur fabrication 10% de toutes les hausses qu'ils sont en train de subir. Donc même le danger de l'inflation va avoir une répercussion sur les ménages qui va être terrible, et je ne suis pas sûr que le chèque énergie, par exemple, qui convient, c'est le revenu annuel ne doit pas dépasser les 10 800 euros, je crois, donc ça veut dire qu'on gagne 900 euros par mois. Je veux dire, quand on gagne un tout petit peu plus et qu'on n'y est pas éligible, ça pose quand même beaucoup de questions. Je ne suis pas sûr qu'en gagnant 1 200 euros par mois, par exemple, il soit aisé de payer une telle hausse de l'énergie sur son foyer. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu tout un sujet, évidemment, sur les logements qui étaient de véritables passoires thermiques et qu'on a mis un peu de temps à régler.
Louis Osalter.
Juste sur un point qui est évoqué, celui du savoir-faire. Là, on parle de la demande et du pouvoir d'achat. Et alors, mais le problème qu'on a, c'est un problème d'offre, on l'a tous évoqué ici. Le positionnement d'Emmanuel Macron, c'était quand même de dire à EDF, c'est important de savoir ça, comment ça s'est passé en coulisses, Emmanuel Macron a un bras de fer avec EDF en leur disant « Montrez-moi que vous êtes capable de construire une centrale nucléaire ». Et c'est pour ça que j'insistais sur l'enjeu de l'EPR. Si la filière nucléaire française n'arrive plus à construire de façon cohérente, sans un débordement de coûts et dans les temps, une centrale, c'est quand même une grande préoccupation. Je pense qu'Emmanuel Macron, pour le coup, en est conscient, mais en coulisses, je pense que ça explique aussi en partie son retard à s'exprimer là-dessus pendant son quinquennat. En coulisses, il y a un bras de fer avec EDF. Emmanuel Macron met la pression sur la filière pour dire « Montrez-moi que vous êtes capable de délivrer un réacteur nucléaire moderne dans les temps et qui ne coûte pas un montant faramineux », c'est-à-dire l'inverse de la catastrophe de Flamanville. Et ça, c'est évidemment l'enjeu de savoir-faire, d'expertise, de technologie pour notre filière nucléaire qui historiquement, a un savoir-faire énorme, bien sûr.
Louis Osalter de Marianne, Louis de Ragnel d'Europe 1, l'essayiste Maxime Yedo et Isabelle Florenne, députée Modem des Hauts-de-Seine, sont avec nous jusqu'à 20h. Dans un instant, on parle de la bombe de cette fin de semaine, la condamnation de Nicolas Sarkozy. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Avec autour de la table le chef du service politique d'Europe 1, Louis Dragnel, Louis Osalter de Marianne, Maxime Yedo, journaliste, essayiste et la députée Modem des Hauts-de-Seine, Isabelle Florenne. Pas de déclaration orale, en tout cas audio, ni télé. Un message sur Twitter, en revanche, Nicolas Sarkozy, combatif, déterminé, hier soir, le droit a été bafoué, c'est une injustice, on ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, voilà ce que déclare, entre autres, Nicolas Sarkozy. Tout au long de la journée d'hier, il a reçu le soutien de sa famille politique après sa condamnation. Écoutez dans l'ordre, Xavier Bertrand, Jean Castex, son ancien collaborateur, et le député LR Julien Aubert.
C'est un ancien président de la République, qui fait honneur à la France, et je me mets avant tout à sa place ce soir. Il est en permanence, accompagné de personnes chargées de sa sécurité, c'est tout. Est-ce qu'on a besoin, en plus, de lui imposer une telle mesure blessante ? Il a fait appel, je le comprends pleinement, pour défendre son honneur.
Le Premier ministre de la République ne peut pas, ne doit pas commenter les décisions de justice. La justice est indépendante et c'est heureux. Néanmoins, je voudrais, dans ces circonstances, manifester mon amitié et mon affection au président Nicolas Sarkozy, auprès duquel j'ai travaillé pendant près de 2 ans, et dont je sais l'engagement qui a été le sien pour notre pays.
Je suis frappé, si vous voulez, par la violence symbolique consistant à condamner à une peine de prison ferme un ancien président de la République sur la base d'une infraction au code électoral sans enrichissement personnel. Il me semble que la peine est disproportionnée et en soi donc susceptible d'interprétation politique. Et puis deuxièmement, ça montre que les juges ont une influence, volontaire ou involontaire, sur le jeu politique. Hein, cela rappelle aussi la manière dont la dernière campagne présidentielle de 2017 s'est passée.
Voilà, Xavier Bertrand au 20h de France 2, Jean Castex au 20h de TF1 et Julien Aubert au micro d'Alexis de la Fontaine. Sarko soutenu, même Jean Castex, hein, il prend des pincettes, mais il le soutien est là. Est-ce qu'il a bien fait, Jean Castex, de soutenir Nicolas Sarkozy ?
Oh bah quand on est sincère, on peut pas reprocher à quelqu'un de témoigner son amitié. Ça aurait été plus simple pour lui de se laver les mains, honnêtement. En tant que, c'est pas pour le défendre, mais il aurait pu.
Donc, il s'est défendu de courage, c'est ce que vous
êtes, à la fin de sa
vous êtes en
phrase.
Train de dire.
Moi, je trouve que c'était plutôt touchant qu'il fasse ça. Ensuite, voilà, ça, en tant que Premier ministre, c'est jamais évident de faire ce type de déclaration. Mais je pense qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que globalement, quand on regarde toutes les réactions politiques de toute la classe politique, mis à part quelques écolos, en fait, il y a eu assez peu de gens qui tiraient sur Nicolas Sarkozy, pour une simple raison, c'est que toute la classe politique sait que maintenant il y a une immixtion de plus en plus importante quand même de la justice dans la vie politique, et que bah voilà, il faut être très regardant, et qu'un jour ou un autre, tout le monde peut être potentiellement concerné par une mise en cause et éventuellement une condamnation. Alors, on peut parler de ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy, mais globalement, la question du financement de la vie politique se pose dans tous les partis politiques de la même manière, avec une limite de plafond. Et c'est un vrai débat d'ailleurs qu'il faudrait se poser, hein, sur à la fois le financement, les plafonds, que c'est vrai, les candidats n'ont pas le droit de dépasser un certain nombre de plafonds. Il y a la question du remboursement et puis il y a la question même de la capacité à emprunter. On sait que c'est de plus en plus difficile pour beaucoup de partis politiques. Absolument. Emmanuel Macron, au début de son quinquennat d'ailleurs, avait parlé de la création d'une grande banque pour financer la vie politique.
François Bayrou.
François Bayrou, vous avez raison.
La banque de la démocratie.
La banque de la démocratie.
Et on l'a jamais vu
le jour. Et je pense que c'était une très bonne idée parce que ça permettait encore de mettre encore plus de distance Parce que les banques, maintenant, sont très gênées à l'idée de financer des politiques. Ça leur fout une peur bleue parce qu'ils se disent « Oulala, s'il y a des problèmes avec la justice, on va avoir une très mauvaise réputation, quoi qu'il se passe. » Et du coup, je trouve qu'il faut peut-être se servir, je sors un peu du débat, mais se servir de ce qui est en train de se passer dans l'actualité judiciaire concernant Nicolas Sarkozy pour se poser les bonnes questions. Parce qu'en fait, on hérite d'un cadre légal qui, pour moi, est assez obsolète, mais avait été mis en place. Il ne faut pas retourner non plus, il faut se souvenir d'où on vient. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout, avant notamment la loi de financement de la vie politique qui avait été initiée par Lionel Jospin, et c'était une très bonne loi d'ailleurs, avant il n'y avait pas rien qui encadrait la vie et le financement de la vie politique. Et du coup, par exemple, vous aviez des groupes pétroliers qui soutenaient un, voire plusieurs candidats, et ça posait la question aussi de l'indépendance, la redevabilité ensuite du politique qui était élu vis-à-vis de ses financeurs. Et du coup, voilà, je pense que ça vaut le coup, ça mériterait le coup, je trouve, de poser un vrai débat. Et en plus, je pense que c'est un des rares sujets qui fait consensus dans le diagnostic, dans toute la vie politique, parce que tous les partis sont concernés de la même manière par ces mêmes questions.
Louis Osalter, de Marianne.
Sur Nicolas Sarkozy, alors, c'est l'histoire du piège tendu par les politiques eux-mêmes, parce que Louis parlait d'immixtion de la justice. En réalité, ce sont des lois qui ont été votées par les politiques eux-mêmes. C'est-à-dire les lois de 88, 90, 95, elles suivent effectivement une période où, pour financer la politique, c'était vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on faisait comme on voulait, tout était occulte, ça passait par des rétrocommissions, des boîtes privées, il n'y avait pas de montant, ça n'était pas contrôlé, c'était vraiment n'importe quoi. On parle d'une époque pas si ancienne que ça, mais à laquelle ces lois sont venues mettre un terme, et c'est plutôt heureux. Mais du coup, c'est en vertu de ces lois, en vertu des limites du plafonnement, que Nicolas Sarkozy a été condamné. Et on sent un réflexe de crainte, en fait, de la classe politique entre ceux qui soutiennent Sarkozy et ceux qui ne vont pas l'accabler après cette condamnation assez lourde. On sent un réflexe de crainte parce que entre les affaires Fillon en 2017, les mises en examen d'Édouard Philippe, d'Agnès Buzyn, de plusieurs responsables qui ont géré la crise sanitaire, ces condamnations qui sont inédites, c'est la première fois qu'il y a une condamnation judiciaire dans le cadre d'une affaire de financement illégal de campagne présidentielle, c'est parfaitement inédit. On sent que la tension entre juges et politiques prend un nouveau tournant, mais il ne faut jamais oublier que les juges rendent leur jugement, leur décision, en appliquant les lois votées par les politiques. Alors évidemment, si les politiques se disaient « on va adoucir les lois qu'on a nous-mêmes votées pour s'auto-réglementer parce que c'était n'importe quoi », on n'imagine pas que ça se fasse du jour au lendemain, mais il ne faut pas oublier cet élément-là. Et le deuxième élément, c'est évidemment la question du financement de la vie politique. Louis le disait que la question se posait pour tous les partis, c'est vrai, mais elle concerne certains plus que d'autres. Aujourd'hui, le Rassemblement national n'arrive à obtenir aucun prêt de banques françaises ou européennes, parce que les banques ne veulent pas compromettre leur réputation. Et pour les partis en général, et les banques françaises sont très frileuses à l'idée de prêter.
Parce que c'est le Rassemblement national ou parce qu'il y a eu notamment l'affaire de l'emprunt russe?
Parce qu'il y a eu des affaires, et pas que celle-là. Il y a aussi l'affaire Big Malion, pour laquelle qui a donné lieu à ce jugement. Il y a eu les comptes de l'UMP. Il y a eu plusieurs affaires.
Vous parliez du RN. Vous parliez justement qu'aucune banque ne veut prêter au RN. Donc je posais la question. Est-ce que c'est parce que c'est le Rassemblement national ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu l'affaire de l'emprunt russe?
C'est l'inverse. L'affaire de l'emprunt russe a découlé du fait que le Rassemblement national a dû aller jusqu'en Russie pour aller trouver de l'argent, ce qui évidemment n'est pas le meilleur des gages de confiance. Et parce que les banques ne veulent pas compromettre leur réputation en prêtant au Rassemblement national, mais même maintenant en prêtant à quasiment n'importe quel parti. Ce qu'elles consentent à faire, c'est uniquement prêter de l'argent à des candidats éventuellement.
Maxime Biedot. Sur la condamnation en soi, c'est assez compliqué de réagir. Je trouve néanmoins que lorsqu'il s'agit des condamnations concernant Nicolas Sarkozy, c'est toujours très compliqué de réagir parce que on ne peut pas être sûr du bien fondé de ces accusations. Parce qu'on se rappelle qu'en été 2020, Le Point sortait un dossier sur la façon dont le PNF avait enquêté. Alors, c'était dans l'affaire libyenne, mais la façon dont le PNF s'était acharné sur Nicolas Sarkozy, à savoir absolument qui était la taupe qui avait prévenu Nicolas Sarkozy, qui était sur l'écoute. Donc, le PNF avait mené pendant plus d'un an une enquête inédite avec l'écoute des avocats, avec parfois la géolocalisation de certains avocats, ce qui a donné lieu, rappelez-vous, il y a une petite année, à l'affaire des fadettes, c'est-à-dire que tous les avocats s'étaient indignés d'avoir été mis sur écoute pendant autant d'années, et surtout que cette enquête-là et ces écoutes n'ayant rien donné, le PNF n'a pas versé cette enquête en nullité au parti de Nicolas Sarkozy, ce qu'avait d'ailleurs reproché la défense de Nicolas Sarkozy lors du procès. Et puis surtout, les vocaux s'étaient indignés parce qu'il est totalement anormal que de telles écoutes se produisent en démocratie. C'est-à-dire que la relation entre le client et son avocat doit être absolument sacrée. Ça fait partie des secrets professionnels que l'on doit absolument conserver. Et que généralement, les jugements ou les procès de Nicolas Sarkozy indignent davantage sur, ou en quelque sorte provoquent une certaine joie de la part de ses détracteurs, plus qu'autre de véritables interrogations sur le PNF. C'est inquiétant, surtout qu'au sein même du PNF, à ce moment-là, il y avait eu des problèmes internes. On se rappelle du vice-procureur qui était à ce moment-là en place, qui avait écrit à la procureure de la Cour d'appel, qui avait dit qu'il y avait d'énormes tensions internes. Et Nicole Belloubet, en ayant ces informations, avait lancé une enquête. Et quand même, à l'intérieur, également à l'intérieur de cette enquête, on utilise quand même des termes qui... On parle quand même de fonctionnement cloisonné du parquet national financier et d'un déficit de remontée d'informations. Donc quand on a toutes ces enquêtes et quand on a tous ces éléments, on ne peut pas un tout petit peu être circonspect quant au résultat du procès concernant Nicolas Sarkozy. C'est toujours délicat.
Alors justement, le mot acharnement n'est pas employé cette fois-ci dans le tweet de Nicolas Sarkozy, même s'il parle d'humiliation, vaine tentative d'humiliation. Nicolas Sarkozy, qui, vous l'avez évoqué, Maxime Bideau, est impliqué, en tout cas approché, concerné dans plusieurs affaires. Victor Chabert, est-ce qu'on peut faire le point justement avec vous sur toutes ces affaires?
Alors, une condamnation en mars dernier pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire Paul Bismuth, pseudonyme utilisé par Nicolas Sarkozy pour ouvrir une ligne téléphonique avec laquelle il échangeait avec son avocat, il a interjeté appel. D'autres affaires sont toujours en cours. L'ancien président est mis en examen dans l'enquête sur le présumé financement libyen de sa campagne de 2007. Son nom apparaît aussi dans une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier sur des conseils prodigués à une société russe d'assurance, mais il n'est pas poursuivi. Dans la très médiatique affaire Karachi, il a été entendu comme simple témoin. Il y a aussi un non-lieu dans l'affaire Bettencourt. Nicolas Sarkozy a été mis hors de cause en 2013. Il a bénéficié de l'immunité présidentielle dans l'affaire des sondages de l'Élysée, des soupçons de commandes irrégulières à deux de ses conseillers, Patrick Buisson et Pierre Giacometti, immunité également dans l'affaire de l'arbitrage Crédit Lyonnais Tapie. Parfois, ce sont des affaires plus farfelues, comme le lien qui avait été fait entre lui et Air Cocaïne. 700 kilos de drogue retrouvés à bord d'un avion à Punta Cana. L'appareil était loué par une compagnie d'aviation d'affaires. Au cours de l'enquête, la magistrate chargée du dossier découvre que l'avion a été plusieurs fois affrété pour des voyages privés de Nicolas Sarkozy. Elle soupçonne alors un abus de biens sociaux parce qu'il n'a pas payé lui-même les trajets. Mais l'ancien chef de l'État a finalement été blanchi.
Voilà donc pour ce. Merci Victor Chabert pour ce résumé des affaires impliquant Nicolas Sarkozy. Évidemment, ça donne, j'allais dire, du grain à moudre pour les détracteurs dans l'ancien président.
Évidemment, mais même sincèrement, je suis étonné que ce soit à gauche, à droite, qu'on s'amuse en quelque sorte à commenter les décisions de justice concernant Nicolas Sarkozy. Quand on a des révélations concernant un parquet national financier qui est chargé plutôt d'avoir des enquêtes concernant des comptes de campagne, concernant des politiques, concernant des grosses affaires, à partir du moment où il y a des soupçons comme celui-ci qui avait révélé, comme ceux qui avaient révélé le point, ce n'est pas normal qu'on balaye ça d'un revers de la main, surtout après les résultats d'une enquête administrative qui révèle des dysfonctionnements. Et ça, dans une démocratie, une fois de plus, qu'on s'habitue à ce que les secrets professionnels, que ce soit un coup avec les médecins, que ce soit un coup avec les avocats, que ce soit un coup ailleurs, ne finalement n'inquiète plus tellement de monde, à titre personnel, je trouve ça un peu stupéfiant.
Et là encore, d'ailleurs, qu'on soit dans un camp, celui des détracteurs ou celui des défenseurs de Nicolas Sarkozy, ce qui se passe, c'est que Sarko reste le faiseur de roi à droite.
Mais évidemment.
Ça, alors, est-ce qu'il reste le feu
Louis Dragnel.
Ce qu'on peut observer tous, c'est que tous les candidats à la primaire de la droite ont tous fait un petit mot très chaleureux, très gentil.
Mais je sens le maire
sans arrière-pensée. Mais. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une semaine, tous cherchaient à avoir le soutien de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je pense que tout le monde ne va pas aller frapper à sa porte pour chercher son tampon. Donc voilà, ça
c'est
un peu...
Par Rue de Miroménil ou Rue Pierre-Gérin, parce que là, pour le coup, avec le bracelet électronique, on ne sait pas à quel endroit...
Pour l'instant, il n'a pas de bracelet électronique.
Il n'en portera peut-être jamais. Et vous avez raison de le dire.
Parce que là, attendez, c'est une petite précision, mais donc concrètement, il a fait appel, ça veut dire qu'il y aura un nouveau procès et il sera à nouveau présenté au début du procès comme présumé innocent.
Exactement.
Donc il peut encore tout se passer. Après, quand on voit les relations entre Nicolas Sarkozy et l'institution judiciaire. C'est assez malheureux, mais c'est vrai qu'il y a même des déclarations de magistrats, et je rejoins ce que disait Maxime Liédo tout à l'heure, qui sont sortis, où ils avaient envie de se le payer, clairement, ouais. Enfin, où ils le disaient, il n'y avait aucun... Non,
mais ceux qui jugeaient, voilà, Nicolas Sarkozy, c'est ceux qui l'avaient épinglé sur le mur des cons, qui avaient été...
c'est ceux qui avaient été épinglés, globalement, c'est la génération un peu d'avant.
Mais les relations
entre Nicolas Sarkozy et la magistrature, ça a commencé quand il était même quand il était ministre de l'Intérieur, quand il était président ensuite, et effectivement après ça s'est poursuivi après. Je note juste une chose, il y a quand même un phénomène nouveau, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une concentration de moyens qui est exceptionnelle aujourd'hui, de moyens judiciaires contre Nicolas Sarkozy et donc maintenant contre toute la classe politique, ça paraît un détail, ça paraît anecdotique, mais par exemple il y a des outils qui sont mis en place, qui sont habituellement utilisés par les services de renseignement pour traquer des terroristes, par exemple... L'IMSI Catcher, alors ça parle à personne, c'est du jargon, mais c'est une sorte de valise qui permet d'aspirer toutes les conversations téléphoniques qu'il y a dans une pièce ou dans un rayon de 100 mètres autour de vous.
Je vais mettre ça chez ma belle-mère. Moi,
voilà, mais alors ça coûte un peu cher quand même, parce que votre belle-mère, il faut lui offrir un cadeau à plus de 500 000 euros.
Ça vaut peut-être le coup pour savoir tout ce qu'on balance.
Et donc, c'est ce type de moyen qui a été mis en place avec des systèmes de bornage où il détournait une antenne relais téléphonique pour simuler justement cette antenne, ce qui permettait d'aspirer les contenus. Si vous voulez, c'est du matériel qui est utilisé par exemple même par les militaires au Sahel, en Afghanistan. Enfin, c'est
une technique française d'ailleurs. Je m'écarte un peu du débat.
Israélienne à l'origine, et puis maintenant tout le monde en fait. Et même il y a le marché du low cost qui en vend maintenant pour votre belle-mère. Cher Pierre, maintenant à partir de 50-60 000 euros, vous pouvez ça.
C'était mon anniversaire il y a quelques jours, j'aurais pu m'en offrir.
Réjouissez-vous, Pierre, parce qu'avec le passage à la 5G, les IMSI Catcher normalement ne fonctionneront plus. Bref, ça c'était pour la notice technique, mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a des moyens énormes qu'on n'avait jamais vu par le passé. Voilà, qui ont été utilisés pour Nicolas Sarkozy.
On n'a pas beaucoup entendu Isabelle Florenne sur le sujet Sarkozy.
Non. Ça vous étonne ?
Point.
Non, mais...
On dira la même chose. Mais vous êtes dans quel camp, vous ?
Ah, moi, je suis pas dans le camp.
Parce que généralement, c'est assez manichéen, en fait.
Eh ben non, je suis pas dans le camp ni des détracteurs, ni.
Vous êtes dans le nini, vous savez, ça rappelle un autre chapitre de.
Je crois, de toute façon, que quand on est soi-même dans le milieu politique, et puis je suis députée des Hauts-de-Seine, et j'ai pas envie de commenter une décision de justice. Mais quand même de dire.
C'est comme Louis Dragnel.
Non, mais quand même de dire, pour répondre aussi aux propos qui ont été tenus par Louis Dragnel sur. La question de la vie politique et du financement de la vie politique, on a fait une loi quand même aussi en 2017. C'était la première loi à la commission des lois, confiance dans la vie politique. Et juste pour dire un regret, effectivement, on n'a pas pu avancer sur le financement de la vie des élus et des campagnes qui sont la question de la banque de la démocratie que vous évoquiez. C'est une question importante qu'il ne faut pas oublier. Ça, c'est un regret. Et un regret aussi.
Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera jamais.
Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Ça veut dire qu'il faut qu'on le remette dans le programme qui arrive. Et je pense qu'on y contribuera avec mon groupe politique pour remettre ces questions et ce sujet sur la table. Aussi pour dire que sur cette confiance dans la vie politique, on n'a pas avancé. Puisque finalement, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, elles sont très révélatrices que les élus restent les mal-aimés.
Il y a les journalistes au-dessus globalement. De vous, rassurez-vous.
Oui.
Voir
oui.
Le même niveau
bon,
selon
alors
les enquêtes.
Voilà, on est à peu près... Non mais, pour dire qu'on a du boulot sur le sujet et que ces affaires, malheureusement, sans prendre parti, contribuent pas à cette amélioration de l'image des politiques.
Isabelle Florenne, Maxime Liédo, Louis Osalter et Louis Dragnel sont avec nous à table. On reparle de Nicolas Sarkozy juste après cette nouvelle pause. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Et on reparle de la condamnation et des conséquences de cette condamnation de Nicolas Sarkozy avec la députée MoDem des Hauts-de-Seine Isabelle Florenne, avec Maxime Liédo, journaliste essayiste, avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, et avec mon confrère de Marianne, Louis Osalter, qui n'a pas encore pris la parole sur ce sujet.
Sur Sarkozy, sur le fait que les politiques... payaient quelque part les lois qu'ils avaient eux-mêmes votées. Sur le financement, alors effectivement, la Banque de la démocratie, en fait, c'est l'un des députés MoDem devant moi, donc je reviens sur ce sujet, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'était l'une des conditions de l'alliance de François Bayrou avec Emmanuel Macron, avec d'autres éléments institutionnels comme la proportionnelle, qui n'a pas vu le jour non plus. Et alors, ce n'est pas faute de la part du groupe MoDem d'avoir essayé de faire advenir cette promesse de la Banque de la démocratie pendant le quinquennat, mais ça n'est pas devenu, et je pense que ça pose un problème encore plus fondamental maintenant, parce que le clivage politique aujourd'hui est très sociologique. C'est-à-dire que si je résume et que je prends une grille d'analyse marxiste, vous avez La République En Marche, le parti des Bourges, et le Rassemblement National, le parti des Prolétaires. D'accord. Je résume, mais quand vous regardez l'analyse des votes, c'est ça. Hein, c'est les classes populaires votent Le Pen ou s'abstiennent, et la bourgeoisie a plus tendance à voter Macron, ou bon, un petit peu à droite, un petit peu pour le Parti Socialiste, un peu les écolos. Mais globalement, c'est ça.
Stabilo Boss, les prolétaires, entre guillemets, ne votent pas LFI. Ils votent Rassemblement
National. Oui, beaucoup plus. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. LFI n'est pas un vote très populaire. C'est plus un vote de fonctionnaires, de profs, de catégories intellectuelle supérieure. Je disais ça parce que ça pose le problème du financement. Emmanuel Macron, quand il a fait sa campagne en 2017, n'a eu aucun mal à lever des fonds, en partie parce qu'il s'adressait à un public de gens aisés, où il a fait des dîners de levée de fonds, il est allé à l'étranger voir des expatriés. Donc il n'a eu aucun problème dans le financement de sa campagne. Il n'y a pas eu de problème non plus pour contracter un emprunt auprès des banques, puisqu'il avait une surface financière personnelle qui était confortable, donc ce n'était pas risqué pour les banques de lui prêter de l'argent. En plus, il était sûr de faire plus de 5%,
c'est
donc
le fameux
d'être remboursé.
Riche, c'est ça,
on ne prête qu'aux riches, et le Rassemblement National, non seulement n'est pas riche, mais les gens qui votent pour lui ne sont pas riches non plus. Donc, il y a une disproportion sociologique dans le clivage politique actuel. Ça a peut-être changé, ça n'a pas toujours été le cas, mais qui fait qu'aujourd'hui, un parti comme celui d'Emmanuel Macron n'a aucun problème de financement, alors qu'un parti comme le Rassemblement National, qui a un électorat très populaire, qui n'a pas non plus une très bonne gestion financière. Au passage, il y a quelques problèmes de gestion financière interne, mais a des difficultés à se financer, y compris à cause de ça. Ils ne peuvent pas compter sur des dîners de levée de fonds, ils ne peuvent pas compter sur des emprunts bancaires. Et la Banque de la démocratie, qui devait répondre en partie à cette question, et y compris permettre l'émergence démocratique, pourquoi pas d'autres formations, d'autres partis qui n'auraient pas eu les moyens immédiats de le faire, mais je pense aussi au Modem, aurait dû répondre à cette question, et aujourd'hui, cette question n'est pas résolue.
Je reviens à Nicolas Sarkozy lui-même, qui, je parle sous votre contrôle, Louis Dragnel, doit signer son bouquin demain à Neuilly-sur-Seine, dans la librairie...
Une des quatre librairies, je crois,
la Martine de l'avenue du Roule. Est-ce qu'il va y avoir foule ? Oui, bien sûr, vous allez me répondre. Mais comment est-ce que va être, comment va être perçue cette signature demain ?
Ben alors, ça fait partie. Vous savez, Nicolas Sarkozy, c'est un des derniers de l'ancien monde. C'est-à-dire que il a des fans absolus. Quoi qu'il se passe, il y aura toujours beaucoup de gens, notamment dans les Alpes-Maritimes, dans les Hauts-de-Seine. Il y a quelques départements comme ça très forts.
Donc c'est localisé. C'est localisé.
Absolument, absolument, dans des fédérations qui étaient très fortes et dans lesquelles il a aussi marqué les esprits. Et donc, je peux vous dire qu'il y aura foule avec plein de gens qui vont lui dire « Tenez bon, monsieur le Président, on vous soutient ». Et c'est des gens, quoi qu'il se passe, de toute façon, resteront inconditionnels à Nicolas Sarkozy. Ce sont un peu les militants historiques de l'UMP. Certains étaient militants avant du RPR. Et ont cette espèce de passion totale pour Nicolas Sarkozy.
Est-ce qu'il va y avoir, alors je ne sais pas, une protection renforcée suite à ces condamnations, aux conséquences qu'il y a eu, effectivement, à quelques, comment dirais-je, quelques commentaires désagréables envers l'ancien président est-ce qu'il y a des personnes qui risqueraient de venir demain matin, justement, pour voir à Neuilly, oui. Pourquoi à Neuilly? Bah, attendez,
ce serait symbolique.
Mais vous
les rues
dit.
Sont ouvertes à Neuilly, c'est pas une voie privée.
Absolument. Hein. Non.
Alors, il y en a, hein, mais
pour vous répondre très précisément, Chapierre. Alors, déjà, par principe, tout ancien président de la République a dispositif de sécurité rapproché qui est géré par le service de la protection. Et donc, ce sont des policiers, une équipe de policiers qui encadrent jour et nuit le président de la République. Ça fonctionne en brigade, donc il tourne. Et c'est plusieurs équipes. Je crois que c'est pour Nicolas Sarkozy, il me semble que ce sont deux équipes de 7 personnes.
Équipes, donc 14 personnes.
Parce qu'il y a des officiers de sécurité, il y a des voitures aussi de précurseurs, il y a une voiture suiveuse. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de sa sécurité personnelle. Et en plus de ça, comme il s'agit d'une personnalité exposée et donc menacée, les services de renseignement, dès que Nicolas Sarkozy se déplace pour ce type d'événement, il prévient évidemment le préfet du département qu'il sera présent à tel endroit, la police sera présente, et en plus de ça, les services de renseignement, s'ils anticipent n'importe quelle menace concernant l'événement, le signalent immédiatement aux policiers chargés de sa protection, et s'il le faut, réadaptent le dispositif de sécurité autour du président. Donc de toute façon, Nicolas Sarkozy, je pense, est entre deux bonnes mains.
Ça vous amène une réaction, Maxime Hiedon ?
Non, du tout, mais ça rebat un peu le si, toujours vos réactions extraordinaires, Louis, m'amènent des réflexions. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça, en effet, ça rebat un peu les cartes de Nicolas Sarkozy dans le jeu politique. On a vu cette semaine la petite tournée médiatique qu'il a fait pour son nouveau livre, notamment ici sur Europe 1 avec Laurence Ferrari. Et on a bien vu à quel point il est encore un tout petit peu nécessaire aujourd'hui dans son camp, c'est-à-dire que les quelques mots qu'il a eu sur l'actualité, sur la politique, sur l'état de son camp, ont été repris sur Zemmour. C'est le seul à droite, c'est la première fois dans le camp, notamment des Républicains, qu'on entend une ligne aussi claire, avec en quelque sorte une ligne rouge à ne pas franchir. Alors qu'aujourd'hui, si on voit les quelques ténors du Républicain, c'est quelque chose que personne ne comprend. Christian Jacob ne veut pas qu'il participe à la primaire. On a un Gérard Larcher qui dit qu'il ne correspond pas aux valeurs, mais le même Christian Jacob, tout en excluant l'idée qu'il participe à la primaire, dit deux jours après qu'il n'est pas d'extrême droite, qu'il n'est pas raciste. Dans ce cas-là, pourquoi il ne participe pas à la primaire ? On a des Laurent Wauquiez qui disent le soutenir et un Éric Ciotti qui dit envisage de voter pour lui si le polémiste arrive face à Emmanuel Macron. Donc on a un camp totalement divisé. Et c'est la première fois qu'une voix à droite, c'est celle de Nicolas Sarkozy, qui apporte une ligne claire sur Éric Zemmour, sur Emmanuel Macron, sur le vide intersidéral des idées. Donc vous voyez, c'est quand même encore.
Dans mon idée de faiseur de droit, est-ce qu'on l'écoute derrière ? Justement. Est-ce que la ligne rouge est tracée ? Est-ce que du coup, elle va être respectée ?
Alors ce qui se passe, c'est que. Alors, c'est quelque chose d'assez ambigu, parce qu'il y a ce qui se passe officiellement et puis il y a ce qui se passe en coulisses. Facialement, Nicolas Sarkozy est retiré de la vie politique, donc en théorie, on pourrait penser qu'il se désintéresse totalement de la vie de son ancien parti. Sauf que, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est tout le contraire qui se passe.
Le contraire.
Et ce qui s'est passé, c'est que pendant beaucoup d'années, de nombreux mois, Nicolas Sarkozy entretenait le mystère sur son possible retour. Et du coup, ça a privé quand même toute une génération politique à droite de monter, d'essayer d'espérer quelque chose. Tout le monde était un peu suspendu à la décision éventuelle, possible, putative de Nicolas Sarkozy de revenir. Du coup, en fait, ça fait très peu de temps qu'on sait que maintenant c'est terminé, Nicolas Sarkozy ne se représentera pas à une élection présidentielle. Et donc forcément, voilà, si vous voulez, on a une équipe 2, une deuxième ligne derrière qui... ça fait très peu de temps qu'ils se disent « Enfin, ça y est, mon tour peut venir. » Et donc voilà, donc Nicolas Sarkozy a créé, malgré lui, ou de son, je pense que c'est aussi de son volontaire, une incapacité pour la droite à essayer de se renouveler, de penser à l'après Nicolas Sarkozy. Donc voilà, on est dans cette situation-là.
Oui.
Et donc la droite est je pense, soit en crise d'adolescence, soit en phase de décomposition totale. On verra tout ça, je pense, après la présidentielle.
L'après Sarkozy est toujours un trou noir pour la droite, ça c'est vrai, même s'il y a une hype Fillon liée au résultat de la primaire, mais qui...
Il y a même eu des rumeurs comme quoi Nicolas Sarkozy, s'il avait été blanchi dans cette affaire Big Ballion, ce serait peut-être représenté.
Ça, c'est un marronnier qu'on a fait des fois, mais qui était toujours présent dans tous les esprits à droite, ça c'est évident.
On parlait de l'équipe 2 qu'évoquait Louis, mais cette équipe 2, je pense qu'il y avait aussi...
C'était l'ombre portée qui tétanisait un peu la droite et empêchait d'autres personnalités d'émerger. En revanche, faiseur de roi, moi je pense pas, parce que je pense que les gens ne fonctionnent plus par consigne de vote, même avec des personnalités aussi emblématiques et statutaires qu'un ancien président de la République. Ce sont des gens qui achètent ses livres, qui peuvent aller les voir en dédicace. Ça ressemble plus à un fan club qu'à un club de votants. Je pense pas que les consignes marchent.
Vous pensez qu'avec Éric Zemmour c'est différent?
Ça, on le verra. Pour l'instant, ça ressemble beaucoup à un fan club, mais on verra comment ça se transforme. Franchement, c'est très intéressant, parce que l'émergence de ce genre de personnalité médiatique va nous permettre peut-être d'apporter des réponses à ces questions. Mais les consignes de vote ne fonctionnent pas tellement. Je pense que Sarkozy n'est pas un faiseur de roi, mais qu'en revanche, il a un pouvoir de nuisance. C'est-à-dire qu'on voit bien le jeu ambigu qu'il joue avec Emmanuel Macron. La rumeur qui court à droite depuis longtemps, ce serait un pacte d'alliance de Nicolas Sarkozy avec Emmanuel Macron qui lui apporterait des troupes et un soutien public
encore
en vue d'une réélection.
Ça court,
mais après, compte tenu en plus de ce qui s'est
Isabelle
passé hier et de sa condamnation,
il a vécu ce que c'était l'enfer d'avoir un président de la République en exercice qui vous déteste, à savoir quand il lui-même, Nicolas Sarkozy, était ancien président face à François Hollande, qui quand même globalement lui a à peu près tout fait pendant son quinquennat, et du coup il a acquis une certitude, c'est qu'il faut bien s'entendre globalement avec tout futur président de la République, quel qu'il soit. Donc il a tout intérêt, parce que si vous voulez, par rapport à on parlait de son calendrier, son actualité judiciaire, il n'en peut plus, si vous voulez, de tout ça. Donc maintenant, ce qu'il souhaite, c'est que surtout Emmanuel Macron ne lui souhaite pas, ne lui veuille pas de mal, et que si c'est un candidat de la droite qui gagne, bien la situation soit la même, c'est-à-dire ne pas avoir d'opposition du président en exercice.
Isabelle, non, Lorraine.
Moi, juste une réflexion. Force est de constater à droite, quand même, depuis son départ en 2012, on assiste quand même au résultat actuel à une lutte et une guerre fratricide. Globalement, je veux dire, il avait quand même, en qualité de président de la République, mais avant, réussi à faire une certaine union derrière lui et à imprimer quelque chose. C'est clair que, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'était pas mon cas et c'était pas le cas de la famille politique à laquelle j'appartiens, qui a été même virulente face à lui, on peut le dire. Mais force est de constater que depuis 2012, quand je vous entends, c'est vrai que et là, c'est la bérésina quand même, ce qu'on assiste à une destruction, je crains là, qui va s'accélérer avec 2 mois pour arriver à un congrès le 4 décembre. Je constate, pour en discuter tous les jours avec des collègues, puisqu'on parle à l'Assemblée nationale et qu'au centre, on parle avec tout le monde, et c'est notre chance, que mes collègues députés LR, pour une grande majorité, ne savent vraiment plus quoi faire.
Et
sont dans une situation quand même extrêmement difficile dans les semaines qui viennent. Et je ne m'en réjouis pas parce que ce n'est pas facile d'appartenir à une famille politique qui va mal. C'est le cas. Je ne vois pas comment, dans les semaines qui viennent, alors effectivement, s'accrocher à Nicolas Sarkozy pour des fan clubs, pour des militants, je peux comprendre. Et c'est le cas dans un certain nombre de départements, parce que bon, il représente quand même cette...
Mais pour des parlementaires, vous ne comprenez pas.
À côté parlementaire, je pense qu'il va se passer des choses quand même dans les, dans les semaines qui viennent.
D'apporter une toute petite nuance à ce que vous dites, c'est que là, on débat, on discute comme si l'élection avait lieu dans 3 semaines. L'élection a lieu dans 6 mois et demi. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Et on a vu,
je dis pas le contraire,
dans l'histoire de la vie politique, que il n'est pas impossible, j'en sais rien. Peut-être que ça ne se passera pas.
Je ne fais pas de prévision. Je dis simplement, excusez-moi, je ne suis pas la seule à le penser, que ce qui se passe là, à droite, et la prévision, et toutes ces remarques, vous lisez, vous êtes comme moi, vous regardez les réseaux sociaux, vous regardez toutes ces remarques, toutes ces ambivalences, toutes ces réactions, minute après minute, heure après heure, par rapport à leur primaire ou non primaire ou congrès, sont quand même destructrices.
Justement, vous avez effleuré le sujet, ça tombe bien, on va parler de la droite juste après le journal de 19h. On va également parler d'Édouard Philippe. À quoi joue-t-il ? Il se dit loyal envers le président, mais par voie de presse, il critique l'endettement du pays. C'est étrange. Sans oublier le grand Messi. Le premier but a été marqué avec le PSG. Ça pourrait calmer tous ceux qui ont critiqué son salaire. A tout de suite pour le journal de 19h. Et à 19h15, le débat reprend. A tout de suite.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
Les débats d'Europe Soir reprennent juste après le journal de 19h qui est présenté par Alexandre Lemaire. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Et il est 19h, ça tombe bien.
Vous êtes sur Europe.
Stupéfaction dans le quartier du Grélet, tueur en série identifié 35 ans après ses crimes. Reportage à suivre dans son voisinage.
Valérie Pécresse repousse les conditions posées par Xavier Bertrand avant le congrès des Républicains. À droite, il n'y a pas de candidat naturel, lui répond-elle.
Le gouvernement a bloqué les tarifs du gaz, mais les Français passeront à la caisse après la présidentielle, préviennent les associations de consommateurs.
Le dépistage du cancer du sein plombé par le Covid, priorité de l'opération Octobre Rose, refaire de ce dépistage un réflexe chez les femmes.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Très pluvieux demain dans le nord-ouest, venté sur de nombreuses régions et de plus en plus ensoleillé en descendant vers le sud.
Météo complète à la fin de ce journal. Et donc d'abord Alexandre, la stupeur dans le quartier du Grélet. Ce tueur en série recherché depuis 1986 est tout juste identifié.
Et pendant 35 ans, les enquêteurs n'avaient qu'un portrait robot. Et hier, ils ont découvert le visage du tueur en série qui leur avait si longtemps échappé. Un ancien gendarme qui s'est suicidé. L'ADN a parlé, Benjamin Péter. Vous vous êtes rendu dans l'Hérault, à Prades-le-Lez et à la Grande Motte, là où vivait le Grélet. Ses voisins peinent toujours à croire à son véritable visage, Benjamin.
Oui, et ce qui revient, c'est la stupéfaction de tous ces gens qui découvrent d'abord la mort de ce voisin qu'ils appréciaient, puis la terrible liste de ses crimes. J'ai rencontré un couple de retraités qui habitent juste à côté. Ils se souviennent d'un homme très intégré, quelqu'un de très serviable.
C'est bien simple, plusieurs fois ils nous ont emmenés chez au cabinet médical sans problème. Ils partaient faire des courses. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Combien de fois il est venu m'aider pour en informatique? Il m'a installé un nouvel ordinateur. Non, franchement, des voisins comme on aimerait en avoir tous. Tous les gens qui l'ont connu sont stupéfaits. Fait d'apprendre ça. On est abasourdi.
C'est même lui qui, l'an dernier, avait organisé la fête des voisins sur cette placette. Intégré, il l'était aussi à Prades-le-Lez, où il habitait auparavant et où il était devenu conseiller municipal. Jean-Marc Lucert, l'ancien maire qu'il avait fait figurer sur sa liste, lui aussi est comme chaos depuis l'annonce de la nouvelle.
Ça fait un peu froid dans le dos. Si j'avais dû témoigner sur François Vérove, les rapports que nous avons eus, le conseiller municipal, c'est un homme courtois, sympathique, discret, qui a tenu son rôle. Et donc je suis aux antipodes de ce que je viens de découvrir. Comme tout le monde.
Et beaucoup s'interrogent sur ce surnom, le grêlé, eux qui n'avaient jamais vu de marque sur son visage, avant de se rappeler qu'aucun ne l'a jamais vu non plus, sans sa barbe fournie.
Merci Benjamin Péter. Le grêlé soupçonné d'au moins 4 meurtres et plusieurs viols. Didier Seban est l'avocat de la famille de Cécile Bloch, violée et poignardée à l'âge de 11 ans en 1986. Elle est une victime présumée du grêlé. Pour les clients de Maître Seban, ce sont plusieurs sentiments qui s'entrechoquent.
Il y a toujours un effet de sidération puisqu'on cherche depuis tellement longtemps qu'on ne s'attend pas à trop ce qu'on trouve si vite. Et puis, il y a une deuxième réaction qu'ont les familles. C'est l'idée, enfin, on ne va pas craindre de le croiser dans la rue ou qu'il revienne. Pour certaines, c'était ça. Et puis après, il y a un sentiment de déception en se disant, finalement, puisqu'il est mort, nous n'aurons pas les réponses que nous attendions. Et puis, dernier point, c'est cette idée de discuter avec la juge d'instruction, discuter avec les enquêteurs, parce qu'on est sûr qu'il y a un certain nombre de victimes qui ne sont pas identifiées. Donc, on voit bien que c'était une enquête hors norme. Et je ne peux pas dire qu'il y a eu des fautes ou des erreurs. Je crois qu'il y a eu l'envie de trouver qui n'a cessé. L'enquête ne s'arrête pas du fait de la mort de celui qu'on appelait jusqu'ici le grêlé.
Maître Didier Seban avec Romain Desarbres dans Europe Midi.
La politique avec Valérie Pécresse qui réplique à Xavier Bertrand et qui pose ses conditions pour le Congrès des Républicains.
Congrès qui doit investir le candidat de la droite à la présidentielle le 4 décembre et auquel participera Valérie Pécresse. La candidate était aujourd'hui à Cherbourg pour détailler son programme sur le nucléaire, sans oublier de répondre à Xavier Bertrand qui souhaite, lui, rencontrer les autres candidats de droite pour s'accorder sur un nom avant le Congrès LR. Autant dire, Alexandre Chauveau, que Valérie Pécresse ne veut pas en entendre parler.
Oui, et Valérie Pécresse n'a pas cédé face à Xavier Bertrand. Il n'y a pour elle aucun candidat naturel et elle appelle par conséquent sa famille politique à jouer collectif. Sous-entendu, chacun doit respecter les règles du Congrès décidées par les adhérents samedi dernier. Alors à Xavier Bertrand, qui appelle au rassemblement avant le 4 décembre, elle répond.
Moi, ma porte est toujours ouverte à tous ceux qui veulent le dialogue. Mais je le dis, à un moment donné, il faut un processus de sélection. Et il ne faut pas avoir peur de la sélection. La sélection, c'est justement la condition de l'unité.
La condition de l'unité, pas vraiment la même définition du Congrès que celle de Xavier Bertrand, qui voit lui une source de division. On rappelle que Valérie Pécresse était initialement favorable à une primaire ouverte à l'ensemble des sympathisants de droite, mais la candidate dit vouloir respecter le choix des militants et elle se soumettra donc à leur vote le 4 décembre prochain.
Alexandre Chauveau, Éric Zemmour franchit un nouveau cap dans un dernier sondage Ipsos. À 15% des intentions de vote au premier tour, il dépasse maintenant le candidat de la droite dans tous les cas de figure, y compris Xavier Bertrand, à 14%. Éric Zemmour qui talonne maintenant Marine Le Pen à 16%.
Voilà, Éric Zemmour à 15%, Marine Le Pen 16%. On sent bien qu'il y a un report de voix. Xavier Bertrand, 14%. On en reparle bien sûr dans les débats d'Europe Soir juste après votre journal. Alexandre, les mesures de Jean Castex contre la flambée des prix de l'énergie donnent du répit aux ménages, mais ils pourraient être de courte durée.
Oui, le Premier ministre a annoncé hier soir une baisse de taxes sur l'électricité, mais concernant le gaz, il a choisi le bouclier tarifaire, un blocage des prix du gaz jusqu'en avril prochain en pariant sur une baisse future des tarifs. Pour les associations de consommateurs, c'est simplement reculer pour mieux payer. À l'UFC, que choisir ? Antoine Autier estime que les mesures du gouvernement ne sont pas à la hauteur.
C'est très très clairement
insuffisant, hein, notamment pour la simple et bonne raison que ce bouclier tarifaire, en quelque sorte, fictif, c'est-à-dire qui donne l'impression qu'il protège les consommateurs, alors que ce n'est pas le cas. En réalité, ce que fait le gouvernement, c'est non pas de diminuer la facture des consommateurs comme il aurait pu le faire, mais c'est simplement leur accorder une sorte de facilité de paiement, puisque de toute façon, ce que les consommateurs ne paieront pas d'ici au mois d'avril sur leur facture de gaz, notamment, ils devront le faire après, justement, l'élection présidentielle. Ce qu'il aura fallu faire sur le gaz, c'est notamment ce qui a été fait sur l'électricité, c'est de jouer sur la fiscalité, notamment via deux leviers. C'est d'une part diminuer la TVA qui pèse sur la consommation de gaz. Aujourd'hui, elle est à 20%, elle aurait pu passer à 5,5%, premier point. Et deuxième point, mettre fin à l'aberration fiscale que constitue l'application de la TVA justement sur ces taxes environnementales.
Antoine Autier de l'UFC Que Choisir avec Maud Descamps.
Et des retraités ont manifesté pour leur pouvoir d'achat aujourd'hui devant le ministère de l'économie.
La scène est assez inhabituelle. Plusieurs centaines de retraités massés aux portes de Bercy pour demander une revalorisation des pensions de retraite. Alors que l'inflation dépasse 2%, les retraites de base n'ont augmenté, elles, que de 0,4%, les complémentaires de 1%. À Bercy, reportage Thibaut Hue.
Pendant 2 heures, les retraités sont restés debout, sans bouger, pour dire leur colère. Beaucoup lèvent des pancartes où l'on peut lire « Injustice, nos poches sont vides ». Anita, 73 ans, a travaillé pendant 46 ans et gagne 1 200 € par mois. Avec ce budget, difficile pour elle de se faire plaisir.
Si vous prenez le loyer, l'électricité, l'eau, eh ben c'est de plus en plus dur et je vais de moins en moins en vacances. Je me prive sur tout ce qui est culture pour pouvoir manger normalement. Parce que, qu'on le veuille ou non, si on mange mal, on tombe malade. On est des personnes à part entière et on a le droit de vivre comme tout le monde.
Bernard Guidou est secrétaire adjoint de l'Union Générale des Retraités. Il est révolté et demande au gouvernement de réagir.
Aujourd'hui, les retraités, ils souffrent. Ils ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat depuis de nombreuses années. Et aussi, beaucoup de retraités subviennent non seulement à leurs besoins, mais aussi à ceux de leurs parents. Les retraités ne sont pas des privilégiés et ils demandent ce qui leur revient, c'est-à-dire une augmentation juste de leur pension.
Les manifestants sont fermes. Si rien n'est fait, ils retourneront dans la rue d'ici la fin de l'année.
Un reportage Thibaut Hue. Le marché automobile français dégringole. Les immatriculations de voitures neuves reculent de plus de 20% par rapport à septembre 2020. C'est le 4e mois consécutif de baisse. Le niveau de commande reste faible et les retards de livraison persistent en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.
Oui, pénurie aussi de caoutchouc, me disait-on encore cet après-midi chez les constructeurs. Donc ça pourrait aussi impacter les pneus bientôt. C'est un sujet qu'il faudra qu'on suive sur Europe 1 19h09. Vous restez avec nous dans un instant. Le dépistage du cancer du sein en chute libre à cause du Covid. Octobre Rose veut sensibiliser les femmes. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Et le retour d'Alexandre Lemaire pour la suite du journal du 19h. Octobre Rose débute aujourd'hui avec une priorité, relancer le dépistage du cancer du sein.
Un chiffre, Pierre, au cours de la vie, une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Pendant un mois donc, des événements Octobre Rose vont sensibiliser au dépistage partout en France. La meilleure arme contre le cancer du sein, les médecins le rappellent, c'est un dépistage précoce. Or, depuis la crise du Covid, Élise Dangean, les femmes vont moins se faire dépister.
Et oui, c'est une tendance générale qui s'est accélérée avec le Covid-19. L'an dernier, 43% des femmes invitées à se faire dépister l'ont fait. C'est 10% de moins qu'il y a 10 ans. Un taux de participation historiquement bas qui s'explique assez simplement, dit Emmanuel Ricard, délégué à la prévention et à la promotion des dépistages à la Ligue nationale contre le cancer.
Je pense que la question du Covid a eu une forte incidence puisqu'il y a eu des fermetures. Il y avait les cabinets de radiologie qui ont été quand même assez occupés à faire les radios, les prises en charge pour le Covid et les atteintes pulmonaires. Donc ça a un peu détourné une activité à la fois du côté de la demande de la part des patientes et du côté de l'offre par rapport à la disponibilité des centres de radiologie ou des centres de mammographie.
Alors tous les professionnels le disent, en pleine accalmie de la pandémie, c'est le moment de prendre ou de reprendre des bonnes habitudes. Pour rappel, on constate une baisse d'environ 15% de la mortalité chez les femmes dépistées.
Élise Dangean. C'est sa première prise de parole publique depuis son retour d'Afghanistan. David Martinon, l'ambassadeur de France dans le pays évacué de Kaboul, dit son inquiétude pour le quotidien des jeunes Afghanes.
David Martinon qui s'exprimait aujourd'hui au Forum mondial Normandie pour la paix à Caen. Pour des raisons de sécurité, l'ambassadeur l'ambassadeur opère donc depuis la France. Il décrit le sort glaçant des jeunes Afghanes depuis le retour au pouvoir des talibans.
Ça fait 13 jours que les filles ne vont plus à l'école. J'ai vu hier l'intervention aberrante d'un responsable taleb qui définissait les conditions dans lesquelles les femmes pouvaient sortir dans l'espace public à Kaboul. Donc plus de vêtements de couleur, elles ne doivent pas sentir bon et elles ne doivent pas mettre de chaussures qui font du bruit à chaque pas parce que le bruit des chaussures des femmes sont un signal pour les jeunes hommes. Je n'invente rien. Nous continuons à essayer de sortir des gens, mais les talibans sont très difficiles dans cette négociation. La question est de savoir si nous devons revenir à un moment à Kaboul. Et pour cela, la communauté internationale a posé des conditions qui sont strictes. Le respect des droits humains et en particulier des droits des femmes, la libre circulation des Afghans. Et je souhaite que le consensus demeure sur ces conditions, parce que sinon, je pense que nous aurons vraiment tout raté.
David Martineau, ambassadeur de France en Afghanistan, avec Marion Gauthier.
L'aventurier grec Soudé, accueilli en héros au port de Brest après sa traversée de l'Atlantique à la rame.
Rendez-vous compte, 107 jours à ramer dans l'Atlantique Nord, 5000 km en solitaire, Guirec Soudé n'avait pas peur d'aller chercher ses limites après plus de 3 mois en mer. Il a franchi hier la ligne d'arrivée à Ouessant et à Brest aujourd'hui. Il a été accueilli en héros, Charles Guyard.
Oui, et c'est au son du biniou forcément que Guirec Soudé est venu amarrer son embarcation juste avant 15h et saluer les centaines de personnes venues l'accueillir.
Je suis rentré là, c'est bon, je suis à la maison.
Une arrivée après 107 jours passés à avancer par des coups de rame à n'en plus finir.
J'ai fait un petit détour, je pense que j'ai dû faire 1,5 million. Quoi.
Des détours et des déboires surtout. L'aventurier de 29 ans en a connu depuis son départ de la côte est des États-Unis le 15 juin dernier. Au 18e jour notamment, il a même frôlé le drame.
Je me suis pris une tempête tropicale où je me suis fait retourner et là j'ai passé des heures à l'envers sur la coque du bateau et je voyais mes affaires partir à droite à gauche et une fois que j'ai réussi à redresser le bateau, c'est là où je me suis aperçu qu'il n'y avait plus grand chose qui fonctionnait.
Moyen de communication cassé, pas de carte météo à bord, c'est recours au système D et surtout retour aux premières épopées maritimes.
J'ai dû revenir à la base de navigation, à l'ancienne, presque à l'étoile, à mettre ma main parfois dans l'eau pour sentir la température de l'eau, pour savoir si j'étais dans le Gulf Stream.
À terre, les proches restent sans nouvelles. Pendant 3 semaines, une parenthèse que Guirec Soudé comblera dans le récit de son aventure avant de préparer et la suivante, le Vendée Globe en 2024. La mer, toujours en solitaire donc, mais cette fois à la voile.
Voilà.
Mais ils vont bien quand même ces gens-là.
Et à la force des bras, c'est déjà un exploit, Pierre. Charles Guyard, donc à Brest, reportage.
Bon, retenez bien ce nom. Il s'appelle Victor Wembanyama. Il est le nouveau prodige du basket français.
Oui, il fait ses premiers pas ce soir avec son nouveau club de Villeurbanne en Euroleague. Victor Wembanyama a seulement 17 ans et déjà un parcours hors norme. Tout indique qu'il va devenir un très grand basketteur. Il fait déjà 2m19. Axel May, c'est le nouveau phénomène du basket français.
Oui, inutile de vous dire qu'il ne passe pas inaperçu sur le terrain. Ouais. 2m19, tout longiligne encore.
Erreur.
Non, il n'a pas sa musculature d'adulte. 17 ans seulement. Et imaginez que la saison dernière, il a joué des matchs pro avec Nanterre. Et ce n'est évidemment pas un hasard si Victor Wembanyama a été recruté cette année par l'ASVEL, le club dirigé par Tony Parker. Mais l'intérieur ne s'enflamme pas.
Même là, il y a 15 micros autour de moi, mais bon, j'essaie d'être détendu, quoi, et jouer au basket, tout simplement. C'est juste moi, j'aime pas me prendre la tête, quoi.
Et le natif du Chesnay dans les Yvelines est en avance surtout, déjà bachelier avec mention assez bien. Et quand on lui demande qu'est-ce qu'il va faire cette année pour progresser, écoutez sa réponse déconcertante de simplicité.
Plus dur, ça sera de continuer à manger sain, me coucher tôt. Je garde mes habitudes et rester une bonne personne dans le terrain aussi.
Voilà, et bon nombre d'observateurs de la planète basket prédisent à Victor Wembanyama un statut de star en NBA, le prestigieux championnat américain. En attendant, il va donc découvrir l'Euroleague, la prestigieuse compétition européenne.
Merci Axel May. Un match.
Quand je l'ai interviewé, il était assis. Donc j'avais pas l'impression d'être petit.
Mais chose du combien ? 60 ? Ah, c'est hallucinant. 2m19.
Vous en êtes encore loin, Pierre.
J'en reviens.
Un match de Ligue 1 à suivre en intégralité ce soir sur Europe 1. Lens-Reims. Les Lensois à la deuxième place du classement. Rendez-vous dès 20h autour de Lionel Rosso.
Merci mon cher Alexandre Lemaire. La météo Vallée d'Armon, c'est un ciel automnal, j'en perds mes mots, qui nous attend ce samedi, voire carrément ce week-end.
Oui, on ne se remet pas des 2m19, hein,
non.
Là c'est vrai.
Non, je m'en
remets
pas.
Et donc là où il va pleuvoir le plus, c'est sur la Bretagne et le Cotentin, parce que déjà au petit matin, le ciel est couvert et les averses fréquentent. Au cours de la matinée, les pluies se généralisent et s'intensifient, tandis que le vent de sud va commencer à se renforcer. L'après-midi, C'est toujours triste à souhait, de la Bretagne et des Hauts-de-France à la région parisienne, au Pays de la Loire jusqu'au Poitou-Charentes. Le temps instable qui se maintient jusqu'au soir avec des pluies soutenues, un fort vent de sud toujours, ce dernier qui souffle en rafale dans les terres jusqu'à 80 km/h, voire 90, et jusqu'à 100 sur le littoral. Et dans la nuit de samedi à dimanche, de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'à la frontière belge, les pluies qui vont rester très soutenues et très durables surtout, et qui vont donner des cumuls importants, bien sûr, on surveillera cet événement.
Est-ce que c'est mieux sur le reste du pays?
Alors c'est vrai que oui, plus on descend vers le sud et mieux c'est, le temps qui devrait rester sec une bonne partie de la journée, mais un ciel qui s'ennuage tout de même de l'Aquitaine au Massif central jusqu'aux régions du nord-est, c'est-à-dire Alsace, Lorraine et Champagne. L'Occitanie, PACA et Rhône-Alpes profitent d'un ciel un petit peu plus lumineux, mais on a ce vent qui se renforce encore au fil des heures aussi dans le sud. Jusque dans l'après-midi, il soufflera jusqu'à 70 km/h et puis plus tard en soirée jusqu'à 120 sur les Pyrénées, de l'Occitanie au Massif central et sur la vallée du Rhône jusqu'à 90. Et il nous annonce un prochain épisode Cévenol pour dimanche.
Et les températures?
Alors les maximales qui vont s'échelonner entre 17 et 22 degrés de la Bretagne, des Pays de la Loire au Poitou-Charentes jusqu'aux frontières du Nord, 21 à 26 toujours au sud, jusqu'à 27 ou 28 d'ailleurs sur le sud de l'Aquitaine et dans le Var.
Merci Valérie Darmon, 19h19, ce sont les débats d'Europe Soir. Nous sommes en direct jusqu'à 20h et dans un instant on reparle justement de ce sondage dont on vous évoquait la primeur. Sondage Ipsos qui donne 15% d'intention de vote, 15% d'intention de vote pour Éric Zemmour qui passe devant Xavier Bertrand. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Avec à mes côtés jusqu'à 20h, la députée MoDem Isabelle Florenne, l'essayiste Maxime Yedo, le journaliste de Marianne Louis aux Altères et le chef du service politique d'Europe 1, Louis de Ragnel. À droite, puisqu'on vient de parler des soutiens à Nicolas Sarkozy, eh bien, la famille politique des LR continue de se fissurer. Pas de primaire, ça c'est acté, trop de dégâts en 2016. Alors chacun y va à sa façon, avec sa casaque, un peu comme au tiercé, en commençant par celui qui est en tête des sondages. Pour l'instant, Xavier Bertrand, et on va en parler des sondages dans un petit moment, le président des Hauts-de-France juge qu'il est le seul à pouvoir battre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
On en a soupé les primaires. La primaire de 2016, qui a été source de division, qui ne nous a pas permis de l'emporter. Et les adhérents de LR, sous la conduite de Christian Jacob, la semaine dernière, ont dit non à une primaire. Ce que je lance ce soir, c'est un appel au rassemblement.
Un appel au rassemblement. Du côté de Valérie Pécresse, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on l'écoute.
Pour moi, il n'y a pas aujourd'hui de candidat naturel. Et à partir du moment où il n'y a pas de candidat naturel, il faut jouer collectif. Le congrès qui a été choisi pour départager les candidats, c'est un processus d'unité. Voilà. Et c'est pour ça que je l'ai accepté. Parce que moi, j'accepte toujours de jouer collectif et j'accepte toujours les règles du jeu, parce que c'est comme ça qu'on rassemble. Moi, ma porte est toujours ouverte à tous ceux qui veulent le dialogue. Mais je le dis, à un moment donné, il faut un processus de sélection. Et il ne faut pas avoir peur de la sélection. La sélection, c'est justement la condition de l'unité. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les militants des Républicains. Ils ont fait leur choix, je le respecte et moi, je m'y soumettrai.
Voilà donc pour la réaction de Valérie Pécresse, sachant que dans quelques minutes, c'est Michel Barnier qui devrait passer à la télévision. On suivra un peu ses déclarations. Et j'allais dire, peut-être que ces deux déclarations de Xavier Bertrand et de Valérie Pécresse sont de l'histoire ancienne, puisqu'on a donc ce sondage dont on vous donnait la primeur dans le journal de 19h, sondage Ipsos pour Le Parisien. Et nous avons donc un Éric Zemmour à 15%, on n'est plus à 10 ou à 11. Nous avons une Marine Le Pen à 16% d'intention de vote pour le premier tour. Je rappelle qu'elle était à plus de 20, je parle sous votre contrôle, Louis de Ragnel, hein, était plus de 20. Et puis après, bah alors, vous avez donc pour les candidats de droite, parce que je ne vais pas tous les citer puisque c'est ceux qui nous intéressent aujourd'hui, Xavier Bertrand à 14%. Et Valérie Pécresse, je la cherche dans mon tableau, mais je ne la trouve pas. Donc, elle doit être aux alentours, justement, de... Vous avez l'information?
Je ne l'ai pas encore ouvert, le sondage.
Je ne l'ai pas. Je vais le rouvrir. Marine Le Pen, Xavier Bertrand, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, on a tout ça. Mais on n'a pas Valérie Pécresse, en tout cas.
Et pourtant, elle a bien été testée. Oui. C'est en cours d'ouverture. Alors, attendez, Pierre, on va tous s'y mettre.
En tout cas, on a cette...
Elle est aux alentours de 12, Valérie Pécresse.
Aux alentours de 12, on va reconfirmer.
Elle est à 12% exactement.
12%. Bon, premier enseignement, Louis Dragnel, de ce sondage.
Premier enseignement, déjà, c'est que Éric Zemmour est au-dessus de n'importe quel candidat de la droite, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand. Le deuxième enseignement, c'est que Marine Le Pen continue de chuter considérablement.
Est-ce que c'est un report de voix, j'allais dire mathématique, entre Éric Zemmour et Marine Le Pen ?
Pas complètement mathématique, mais oui, c'est Éric Zemmour qui fait chuter Marine Le Pen, absolument. Et puis Éric Zemmour prend aussi à droite, puisque il n'y a pas de candidature à droite qui émerge considérablement. Il empêche en tout cas une dynamique du côté des Républicains. Et enfin, il y a une petite confirmation pour Xavier Bertrand, c'est que dans tous les cas de figure, Xavier Bertrand est le mieux qualifié quand même de tous les candidats de la droite face à Éric Zemmour, face à Marine Le Pen, face à Emmanuel Macron.
Louis Alter.
Les sondages, il faut les prendre non pas pour les chiffres qu'ils donnent à un moment donné et que donne un seul sondage, mais pour la tendance qu'ils dessinent. Oui. Donc là, la tendance Zemmour est quand même évidente, puisqu'on a plusieurs instituts sur plusieurs semaines qui nous expliquent qu'Éric Zemmour recueille un nombre croissant d'intentions de vote. C'est même assez fulgurant. Quelque part, en fait, ça arrive trop vite pour lui. C'est-à-dire que je pense que lui-même ne s'attendait pas à ce que cette croissance se fasse aussi rapidement et aussi tôt dans la campagne, puisqu'on n'est que le 1er octobre. On a encore plusieurs mois avant la présidentielle. Il y a quelque chose d'important à garder en tête, c'est que champion d'automne n'est jamais le champion du printemps. Donc, en tout cas, quasiment jamais. Et ce qui devrait nous faire garder notre sang-froid quand on commente les sondages les uns après les autres. Et parmi les prétendants, ceux qui sont actuellement plus en baisse, donc fébriles, ou ceux qui sont quasiment sûrs de gagner, doivent aussi modérer les ardeurs dans les QG. On est dans une période où la plupart des Français ne s'intéressent pas à l'élection présidentielle. Tout simplement parce que ce n'est pas le calendrier de maintenant. Et plus seuls les gens qui s'intéressent à la politique.
Je suis pas tout à fait d'accord avec vous.
Moi, je pense que c'est le cas. Et qu'en plus, les décisions de vote se forment de plus en plus tard. Et même la décision d'aller voter, d'aller à l'isolement.
Ça tombe bien si vous n'êtes pas d'accord, parce que vous allez reprendre la main. Mais après, une nouvelle pause. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Avec Louis Dragnel, Louis Osolter, Maxime Yedo et Isabelle Florenne, on parle de ce sondage que l'on a du mal à décrypter. En fait, on a enfin retrouvé les bons chiffres de ce sondage Ipsos pour Le Parisien, avec effectivement cette projection qui donne Éric Zemmour à 15% d'intention de vote au premier tour. 15% avec effectivement un Xavier Bertrand à 14% dans l'hypothèse où c'est lui le candidat des LR. On est à 12% pour Valérie Pécresse, où c'est elle la candidate des LR. On est à 11% pour Michel Barnier, si c'est lui le candidat des LR. Je vous ai coupé la parole, mon cher Louis Dragnel.
Mais non, mais surtout, ce sondage est intéressant parce que quand on poursuit les pages de la notice, on découvre par exemple que si Éric Zemmour n'est pas candidat, eh bien, mécaniquement, Xavier Bertrand passe de 14% à 17%, donc il prend 3 points, ce qui montre vraiment que Éric Zemmour prend également à Xavier Bertrand. Donc je trouve que c'est intéressant. Ensuite, Louis Osalter disait tout à l'heure que les Français ne s'intéressent pas aujourd'hui à la politique.
La plupart des Français.
Eh bien moi, je ne le pense pas. Je constate des records d'audience pour certaines émissions politiques. Et s'il y a bien une élection qui passionne les Français, c'est l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de candidats. Souvent, on les entend parler. Ils expliquent que ce qui n'intéresse que les Français, ce sont les programmes. Or, on sait très bien que les Français lisent très très peu les programmes. Ils s'attachent en fait à 4-5 maximum mesures symboliques.
C'est du vote, c'est pour l'incarnation.
Exactement, et c'est ce qu'Éric Zemmour a très très bien compris. Il y aura sans doute peut-être pas de programme, ou alors le programme ce sera une annexe d'un discours, un peu comme Emmanuel Macron l'avait fait aussi pour sa campagne de 2017. Éric Zemmour, il veut préempter 4-5 thèmes et les imposer et faire en sorte que tout le monde débatte par rapport au thème que lui a choisi.
Vous aurez remarqué qu'à la dernière élection présidentielle américaine, Joe Biden n'avait pas de programme, ou alors c'est arrivé extrêmement tard.
Absolument, cher Pierre.
Sur le sondage que vous mentionniez, Louis Dragnel, dans l'hypothèse où il n'y a pas de candidature d'Éric Zemmour, effectivement, on retrouve un Xavier Bertrand à 17%, mais on retrouve une Marine Le Pen à 25%, et qui équivaut au score que ferait Emmanuel Macron à 25% également. Donc on retrouverait, j'allais dire...
Ex-écho, Emmanuel Macron, Marine
Le Pen.
Exactement
ce qu'on disait il y a quelques mois avant la sortie d'Éric Zemmour.
Et ça, c'est très intéressant, ça montre quand même que... Vous savez, tout le monde explique que Marine Le Pen est en chute depuis quelques semaines, mais ça montre que son potentiel électoral reste quand même très puissant. Ex-écho, potentiellement, avec Emmanuel Macron... ça veut dire que si vous avez des gens qui sont prêts à voter pour elle, leur intention est quasiment intacte s'il n'y avait pas la candidature d'Éric Zemmour.
Maxime Yedo.
Ce sondage montre malheureusement un petit phénomène qu'on voit depuis quelques temps, c'est-à-dire la chute de la droite dans tous les cas, même si Xavier Bertrand arrive à se hisser en troisième homme, mais bon, il est ce qu'on lui a rappelé très justement hier dans un journal télévisé, c'est-à-dire qu'il n'est quand même pas crédité régulièrement au second tour, il n'est pas l'homme qui peut affronter Emmanuel Macron, et puis il y a quand même un énorme défaut d'idées à droite, je veux dire, ils ont eu un boulevard depuis 5 ans, ils étaient censés... Oui, un peu partout, d'accord, mais encore un peu plus à droite.
Donc vous ne croyez pas, là... Maxime, vous ne croyez pas au calendrier, c'est-à-dire vous ne dites pas
du tout.
On est le 1er octobre, donc le 1er décembre, peut-être que Zemmour sera à beaucoup plus que 15%.
Ah mais peut-être qu'il sera beaucoup plus à 15%, ce que je veux dire, c'est que je suis navré de l'état de la droite, ils ont eu un boulevard pendant 5 ans, il y avait des sujets d'opposition majeurs avec Emmanuel Macron, on sort d'un an et demi de Covid, où il y avait énormément de choses à proposer, à proposer sur l'éducation, sur l'économie. On voit encore aujourd'hui qu'avec l'échec régulier que fait Emmanuel Macron, qui se compte en milliards, il devrait y avoir une place pour une droite qui déteste la folie dépensière, qui justement est pour la rigueur budgétaire. Ça, on ne la trouve pas.
Enfin, et ça, quand on a la sortie d'Edouard Philippe.
Oui, Edouard Philippe, qui n'est plus aux Républicains, vous le savez comme moi, et qui n'est pas non plus à la République En Marche, qui interroge
non plus beaucoup de choses.
Donc, et la façon dont la droite est obligée, en quelque sorte, de se rattraper sur certains thèmes que met en avant Éric Zemmour, ça me pose énormément de questions et ça traduit de toute façon...
Éric Zemmour, qui se dit d'ailleurs l'héritier du RPR et qui n'a pas manqué également d'apporter son soutien à Nicolas Sarkozy. Hier.
Exactement, mais Éric Zemmour a tous les bons points pour l'instant, dans le sens où il n'a pas de passé politique, donc il peut se vanter d'avoir toujours dit la même chose et donc d'être fiable à ses idées. Il ne s'est jamais engagé, donc il peut très bien promettre de faire ce qu'il dit et de dire ce qu'il fait. Et ensuite, surtout, il n'a pas, en quelque sorte, le défaut de l'ambiguïté, parce qu'à droite, ils sont tous là, oui, on ne sait pas, vous comprenez. Éric Zemmour, il a des idées, il y va, pour parler trivialement, au bazooka, et pour l'instant, c'est ce qui lui permet de torpiller et Xavier Bertrand et Marine Le Pen.
Et pas Emmanuel Macron encore.
Pas encore Emmanuel Macron.
Pas encore ou pas du tout Isabelle Florenn?
Moi, je... c'est difficile à dire. Oui, non, mais
il y a un emballement. Merci, dans un instant, la météo.
Il y a un emballement médiatique, mais moi, je peux comprendre, puisque... Mais je suis... Je veux dire, il y a 5 ans, on pensait que Alain Juppé, en septembre 2016, donc, allait être président de la République. Enfin, il y avait un engouement, il y avait à droite, en tout cas, un emballement autour de la candidature d'Alain Juppé. On a vu que 2 mois après, ce qu'il en était.
On peut revenir dans l'histoire, et en 1993, on était persuadé que ça serait Édouard Balladur, et en 1981, on restait persuadé que ça serait Valéry Giscard d'Estaing.
Mais c'est important aussi de regarder, et pour des élus que nous sommes, aussi de garder la tête froide par rapport aux événements et à la médiatisation. Moi, je peux comprendre qu'Éric Zemmour ait beaucoup d'amis aussi chez les Républicains, puisqu'il les a fréquentés pendant longtemps. Journalistes, chroniqueurs, journalistes au Figaro. Il a beaucoup d'amitié aussi, ce qui crée, on le sent bien, un malaise à droite important de la part de ses anciens, de ses amis. Et puis, vous le disiez très bien.
Maxime Lido.
Depuis, voilà.
Parce que c'est
Maxime
lui que vous montrez.
Maxime Lido que je montre.
Désigne.
Voilà. Fait, il y a quand même une absence cruelle d'idées. Je le constate dans le débat parlementaire. Malheureusement, très peu d'idées nouvelles depuis quelques années et quelques mois de la part de la droite. Hein. C'est un peu dommage. Y compris Zemmour, parce que moi j'attends quand même les propositions d'Éric Zemmour sur...
Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu au grand rendez-vous d'Europe 1.
On peut ne pas être d'accord, mais il y a
des idées sur les expulsions notamment.
Mais ce sont ces idées qui dérangent
parfois. Moi ce qui me gêne, si vous voulez, pour le moment, dans les idées d'Éric Zemmour, évidemment, pour le mouvement que je représente, c'est que tout, pour le moment, tourne autour de la question migratoire et d'immigration. Et c'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique, c'est pas l'alpha et l'oméga d'une présidentielle. Bah oui, ça en fait partie, mais c'est un des sujets. Et il y a bien d'autres sujets qui devront être mis sur la table et qui vont l'être, heureusement.
Mais il y a vendre des idées, il y a vendre une vision du monde. C'est-à-dire que Zemmour, à la différence d'autres candidats ou pré-candidats,
ne vend pas à la découpe sa dernière idée, comme Xavier Bertrand hier qui nous parlait de sa prime, la prime à l'emploi, ou prime, prime au pouvoir d'achat.
Qu'on fait déjà.
Comment ça s'appelait
Donc
une sorte de prime d'activité sous une autre forme. Mais là, on est presque dans la technique. Évidemment que c'est très important pour les gens. Je pense que la présidentielle se fera en partie sur le pouvoir d'achat, qu'elle ne se fera pas que sur l'immigration, je suis le premier à le dire. Mais Zemmour, à la différence de la plupart des membres du personnel politique, vend une explication du monde clé en main, en disant le principal problème et l'unique grand problème, c'est l'identité, c'est l'immigration, c'est une menace civilisationnelle. Et de là va découler, il va décliner en fait des propositions uniquement à partir de cette matrice-là. Et là, il prend, à mon avis, dans cette période préélectorale où les gens ne savent pas encore pour qui ils vont voter, ne savent pas encore, à mon avis, ne se projettent pas dans l'élection présidentielle encore, mais regardent ce qui se passe et regardent surtout ce qu'on leur vend, les visions du monde, comment on leur explique le monde, quel est le récit qu'on tente de leur servir pour expliquer tous les problèmes qui nous arrivent. Et là, Zemmour a une énorme force là-dessus, c'est que lui, depuis qu'il est journaliste essayiste, vend une vision du monde qui est complètement globale et qui est cohérente, parce qu'il n'a pas changé d'avis depuis qu'il est devenu chroniqueur à la télévision et dans les journaux. Effectivement, se posera pour lui la question du passage, non pas à l'élaboration d'un programme. Je suis d'accord avec Louis Dragnel, ça ne se joue pas sur des programmes. Personne n'avait lu le programme de Macron. D'ailleurs, on a découvert après son élection qu'il y avait des choses dont on n'était pas au courant. C'était marqué, mais personne ne l'avait lu. C'est quelques mesures phares, typiquement la taxe d'habitation, qui avait beaucoup marqué les esprits quand Emmanuel Macron a fait campagne.
Dédoublement
des classes, des choses qui sont identifiables, qui sont palpables, qui sont des mesures phares. Ça, Éric Zemmour ne l'a pas encore. Il le prépare sans doute. Il n'est sans doute pas le moment de le dégainer. Mais j'attends de voir comment il décline une vision du monde qui est assez obsessionnelle et qui est quand même rassemblée autour d'un problème unique. Il sait la vendre de façon cohérente. Je ne sais pas encore comment il décline des mesures identifiables et palpables en fonction de ça.
Louis Osalter, Isabelle Florenne, Maxime Yedo et Louis Dragnel sont là jusqu'à 20h. Dans un instant, on parle d'Edouard Philippe et de Lionel Messi. Cherchez l'erreur, à tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, Louis Osalter de Marianne, Maxime Yedo et Isabelle Florenne, députée Modem des Hauts-de-Seine. Déjà au Moyen-Âge, le poète François Villon disait « En grande pauvreté ne gît pas grande loyauté ». Et pourtant, loyal il l'est, il le dit, Édouard Philippe à Emmanuel Macron, « Loyal et libre », traduisait, pas impliqué dans le combat présidentiel. Mais lorsqu'il sonne l'alerte, pas plus tard qu'hier, dans le magazine Challenge, l'alerte sur la dette, la façon dont on dépense l'argent public en France, comment est-ce qu'on peut prendre ça? Quand il dit, voilà, pour régler les dépenses publiques qui n'augmentent pas plus vite que la croissance, il faut s'y tenir. La première réforme à faire, c'est celle des retraites, à peine à près de 330 milliards. Personne n'imagine d'appauvrir les retraités, alors il faut allonger la durée de vie. Enfin, je veux dire, elle est où la loyauté, là, Emmanuel Macron, Louis Dragnel?
Alors, il y a deux questions. Il y a une question de fond, une question de forme. Sur le fond, moi, je suis plutôt acquis. Je trouve qu'il a plutôt raison sur la question, notamment, du fait qu'on doit travailler beaucoup plus longtemps, jusqu'à 67 ans. Et ensuite, effectivement, ça intervient dans un contexte politique où Emmanuel Macron...
Il aurait pu lui envoyer un mail plutôt
absolument.
Que de faire
un article dans Challenge. Il était quand même Premier ministre pendant quelques années au gouvernement, donc il aurait pu le faire. Et puis effectivement, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que le MoDem que vous représentez, chère madame, ici ce soir, et de l'autre côté, Édouard Philippe, sont déjà en train de s'organiser pour savoir comment va se passer le prochain quinquennat. Ça se traduit comment, en fait? Ça se traduit par dans quelle circonscription je peux investir tel ou tel député, parce que à la fin, chacun se compte. Le MoDem souhaite avoir le plus grand nombre de députés. De son côté, Édouard Philippe le souhaite également. Et puis, entre les deux, il y a La République en marche. Et donc, ce qui est en train de se passer avec Édouard Philippe, c'est qu'il est en train de préempter un certain nombre de thèmes pour essayer de les imposer et ensuite, pour, dans le même temps, négocier un certain nombre de circonscriptions.
Parce il a hérité du « en même temps », c'est
quoi
ça.
Qu'il se passe, mon cher Pierre, si Emmanuel Macron gagne, Édouard Philippe veut peser. Et d'ailleurs, si Emmanuel Macron remporte la prochaine présidentielle, sa gouvernance ne sera pas du tout la même que celle qu'on a connue pendant 5 ans. Ce sera très compliqué parce qu'il faudra composer avec des forces politiques qui sont un peu moins godillottes, entre guillemets, si le mot existait, on pourrait le dire comme ça. Donc ça, c'est la première chose, si Emmanuel Macron est réélu. Et puis si Emmanuel Macron n'est pas réélu, Édouard Philippe, il a des ambitions pour après. Édouard Philippe, il se dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'avoir un groupe parlementaire, d'avoir une formation qui soutient mes idées, qui essaye de porter un certain nombre de messages.
Donc une opposition constructive, d'une certaine manière.
Alors, c'est constructive autour de lui, surtout, pour le faire émerger, pour le faire monter, pour le...
Un shadow cabinet, comme on dit en Angleterre.
Exactement. Et du coup, voilà, donc, le contexte actuel, c'est surtout, tout le monde se pose la question, dans la majorité d'un point de vue assez large, sur ce que sera cette majorité après l'élection présidentielle.
Dans la majorité, on se pose la question, Isabelle Florenne.
Oui, et alors on réfléchit. Alors, peut-être qu'il ne faut pas sauter les étapes et qu'avant, il y a l'étape présidentielle et que cette étape, elle est importante. Avant de penser à l'étape de 2027, il y a l'étape de 2022 et on y travaille. Et on y travaille avec la constitution d'un pôle central. De la vie politique et vous avez entendu sûrement les prises de parole de François Bayrou, de Richard Ferrand sur le sujet et de la fondation d'un rassemblement démocrate central de la vie politique, bien sûr ouvert à tous ceux qui voudront soutenir Emmanuel Macron, qui j'espère sera candidat d'ici la fin de l'année. Mais voilà, donc c'est quand même ça, c'est quand même ces deux forces politiques qui sont La République En Marche et le MoDem qui ont porter Emmanuel Macron à l'élection présidentielle.
C'est très intéressant ce que vous dites, quand vous dites il y a une perspective pour 2027, mais en attendant, il y a 2022. Pardonnez-moi, mais il y a quand même beaucoup d'observateurs, et ça commence à monter, qui disent les trains, ça ne passe pas 200 fois. Pourquoi cette obsession d'Edouard Philippe de 2027, alors que, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on lui prête, alors que 2022 est à portée de main?
Parce que son capital politique vient aussi de sa loyauté à Emmanuel Macron. C'est-à-dire, je pense que des gens pourraient se détourner de lui s'il trahissait Macron effrontément. C'est ce que Macron...
La proportion serait trop grande, la proportion de ceux qui se détourneraient.
Je ne sais pas s'il a fait le calcul lui-même. Je pense que c'est aussi une question d'opportunité. Il faut aussi voir la cote de popularité actuelle du président de la République, le fait qu'il soit en tête dans tous les sondages d'intention de vote. Il est encore à 23-24% dans le dernier sondage Ipsos. Édouard Philippe a tenu compte de ces paramètres-là. Quand Emmanuel Macron trahit François Hollande et se présente et lui coupe l'herbe sous le pied, François Hollande a une cote de popularité catastrophique, aucun sondage ne le voit réélu. C'est quand même pas le même contexte politique. Emmanuel Macron a suffisamment bordé. Donc je pense qu'Édouard Philippe, il a clairement fait la mue déjà, il faut faire une mue quand même pour se projeter en candidat à la présidentielle. Là on voit qu'il l'a fait, il donne des interviews programmatiques où il explique en gros ce que serait la France sous Édouard Philippe. C'est une France où on travaille beaucoup plus, il faut rembourser la dette. Toute sa vie et voilà, c'est
un peu du programme.
C'est labeur. Il n'a pas encore dit combien de fonctionnaires il allait supprimer, mais ça arrivera.
Non, mais c'est vrai sur la dette, même avant la crise. Pardon. Non, mais il y a juste une petite remarque. Mais par rapport à ce qu'il souhaite et ce qu'il explique, il a toujours dit ça, Édouard Philippe. Mais dans la pratique, l'exercice du pouvoir, ce qui est vrai, c'est que avant la crise, la dette a augmenté.
Avant la crise Covid.
Bien sûr. Il n'y avait pas du tout.
Avant les aides.
Il n'y avait pas de volonté. En tout cas, il y avait une volonté orale exprimée.
Je suis tout à fait d'accord. Et sur l'âge pivot, la question de l'âge pivot, on a quand même eu des discussions et on a eu du monde dans la rue et on a eu une approche qui n'était pas
beaucoup de discussions
et beaucoup de manifestations aussi. Et donc là, je dis simplement pour ce que nous représentons autour d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire quand même une certaine idée du dépassement de la vie politique, je crains que d'aborder, et c'est très bien qu'on ait le débat avec Édouard Philippe, qu'on l'ait avec lui, que d'aborder la question des retraites uniquement par l'allongement de la durée et de l'âge pivot in fine, parce qu'il revient toujours à cette idée-là, ne soit pas tout à fait notre conception, en tout cas le MoDem, de la façon d'aborder le sujet. Si on parle de l'allongement de la durée des cotisations...
C'est la différence entre la droite et le centre.
C'est intéressant d'avoir le débat. C'est là que c'est intéressant ce qu'incarne toujours, je pense, Emmanuel Macron et les hommes et les femmes politiques qui l'entourent et dont je fais partie, c'est-à-dire une idée du dépassement des clivages et d'un certain nombre d'idées et d'approches sur ces sujets, dont les retraites, fait effectivement complètement partie.
Les amis, il reste quelques minutes d'émission. Je voulais quand même qu'on évoque Lionel Messi. À tous ceux qui avaient encore des doutes, Messi est depuis mardi soir 22h30 un vrai Parisien. L'Argentin a enfin marqué avec le PSG contre Manchester City avec la complicité de Mbappé. C'était à la 74e minute. C'était en direct sur Europe 1 et c'était Cyril de la Morinerie au commentaire.
Verratti sur la droite pour le sextuple ballon d'or qui est parisien. C'est le numéro 30. C'est Léo Messi. Il est parti du milieu de terrain. Il va donner à Mbappé. La talonnade pour Messi. Il va marquer. Il a marqué. Léo Messi. Messi, le premier but du Paris Saint-Germain avec Léo Messi. De Léo Messi au PSG. Ce soir, sur Europe 1, il l'a fait.
La joie de Cyril de la Morainerie pour ce premier but de Messi. C'est un but à 40 millions d'euros, parce que c'est le salaire, hein, 40 millions d'euros. Louis Dragnel, 40 millions d'euros brut, salaire annuel au PSG. Est-ce qu'on peut encore parler d'argent devant le talent de Messi, ou ça n'a rien à voir, il y a l'argent d'un côté et le talent de l'autre?
J'ai toujours beaucoup de mal, moi, sur ces sujets, parce que ce sont des sommes qui, pour moi, sont tellement extravagantes. Je pense qu'il faudrait, il y a un vrai sujet sur l'argent et le football, il faudrait qu'on en parle, je pense, assez longuement, mais moi je trouve que tout est assez disproportionné. Le football est quand même devenu aussi le symptôme d'espèce d'ultra-libéralisation quand même de certaines pratiques dans le sport, et donc je trouve que les sommes sont totalement excessives et disproportionnées.
Oui, non, voilà. Sur le sport, je ne suis pas le meilleur à interroger, mais il y a quand même plusieurs choses. On sait que Lionel Messi, le salaire mirobolant, c'est hors prime en plus qu'il va toucher pour faire les pubs. Mais ce qui est aussi intéressant de voir, c'est le prix qu'il va rapporter ou qu'a déjà rapporté la vente des maillots dans différentes boutiques, l'engouement que ça va provoquer chez certains jeunes. C'est l'aspect totalement
psychologique aussi chez les
jeunes.
Oui,
mais puis même.
Ça entraîne tout un pays.
Oui, puis ça va aussi provoquer une augmentation. Alors, ça, c'est peut-être un peu le côté négatif. Là, on pouvait aller voir le PSG en quelque sorte jouer contre Angers par exemple à des prix totalement dérisoires, c'est-à-dire une dizaine d'euros la place. Là, ça prend tout de suite 30-40 euros. Alors ça, c'est toujours le côté négatif du sport, c'est que pendant qu'on dépense des sommes absolument folles pour des pubs, pour le salaire des joueurs, à côté, il y a des petits stades qui ne peuvent plus forcément aller voir jouer leurs équipes à cause de la montée des prix. Il y a aussi des petits clubs qui n'ont pas forcément les moyens, donc ça pose évidemment beaucoup de questions, mais c'est intéressant.
Le monde du foot, l'écosystème financier du foot a toujours été, c'est quelque chose de très spécifique, c'est un peu comme le luxe, c'est des secteurs très spécifiques, les montants sont délirants parce que c'est un écosystème particulier qui concerne quelques personnes, peu d'acteurs. On pourrait dire so what, parce qu'après tout, c'est pas nouveau, ça fait longtemps que c'est comme ça, mais il y a quand même des signaux d'alerte qui devraient inquiéter le monde du foot en général. Il vous aura pas échappé qu'il y a quelques mois, un projet a capoté qui était celui de constituer une ligue européenne des meilleurs clubs de foot. C'est-à-dire, et là on atteint l'acmé de la finance internationale, des logiques financières néolibérales internationales, que les meilleurs clubs de foot se détachent de leur ligue nationale, donc du pays, de leur ville, de leurs racines, pour aller former une ligue internationale, en l'occurrence européenne, pour jouer entre eux, faire plus de matchs, des matchs qui rapportent plus d'argent, avec plus de stars, et donc donc un encaissement des droits télévisés qui sont plus importants. Ce projet a capoté pour l'instant, parce qu'il a suscité une indignation en criant à la fin du football populaire, ce qui est vrai, c'est une déconnexion vis-à-vis du public populaire qui suit le football. Mais c'est le genre d'alerte qui vous raconte la déconnexion entre un milieu financier qui s'est internationalisé, qui a épousé des pratiques qui nous paraissent délirantes et déconnectées, et ce qui est l'assise du football, qui est un sport populaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être à la portée des gens. Un supporter du PSG devrait pouvoir aller au stade sans que ça lui coûte des dizaines d'euros. On devrait pouvoir, autre grand problème, regarder des matchs de télévision, de foot, sans payer 50 euros par mois à la télévision, parce qu'il faut s'abonner à deux ou trois opérateurs. Donc cette espèce d'hubris du football risque en ce moment de se retourner contre lui, et on est un peu au bout du cycle de cet écosystème si particulier, à mon avis.
Eh bien, merci beaucoup à vous quatre. Merci à Isabelle Floren, Maxime Yedo, Louis Osalter et Louis de Ragnel. Lionel Rosso, vous avez la transition toute trouvée à votre émission, le Studio des Légendes. Bonsoir.
Absolument.
Lionel.
Absolument. Bonsoir Pierre. Le Studio des Légendes, Guy Roux, Charles Villeneuve, Fabien Otteniente et Thierry Bretagne, ce soir avec des thématiques passionnantes, mais on va surtout se demander si Lionel Messi, vous le savez Pierre, qui a marqué ce but extraordinaire en Ligue des Champions, est-ce qu'il a mis tout le monde d'accord? Y a-t-il encore des doutes autour de Messi et du Paris Saint-Germain? On évoquera aussi le derby Saint-Étienne-Lyon qui aura lieu dimanche soir à suivre sur Europe 1. Est-ce que ce derby a encore de la valeur? Et puis on suivra évidemment la rencontre de football entre Lens et Reims qui a lieu ce soir, le coup d'envoi à 21h. Mais nous on est là à partir de 20h.
Merci Lionel, bonne soirée.